Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 26 septembre 2015 et nous revoilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 17e volet de l'Entrepod. Une nouvelle saison qui démarre sur les chapeaux de roue en direct et pour la deuxième fois dans cette belle et agréable ville de Darnétal pour le 20e festival de la bande dessinée où nous avons intégré la salle principale, excusez du peu, j'ai nommé Normandie Bulle. Aujourd'hui autour de la table, il est de nouveau à la technique, prêt à lancer les jingles mais nous attendons avec impatience ses retours, écrits avec poésie et beaucoup de sensualité. J'ai promis de ne plus me moquer de son manque de cheveux, mais c'est terriblement difficile à contrôler, je vais avoir du mal face à le chauve. J'ai nommé Christophe.
Bonjour.
Il nous revient également avec cette nouvelle saison. Dans ses questions judicieuses et pertinentes, élève le niveau parfois bien bas. Ses costumes taillés sur mesure, ses lunettes correctement positionnées sur son nez, nous ferait penser à un présentateur du JT aux heures de grande audience. Mais non, il est simplement ici avec nous, j'ai nommé Lulu.
Ah, merci.
Bravo.
Il a fait quelques apparitions au cours de la dernière saison. Il nous a prouvé qu'il pouvait être capable du meilleur comme du pire. Et en plus, le monsieur aime le bon vin. Un alcoolique de plus dans l'équipe, ça ne peut pas faire de mal. C'est donc avec un grand plaisir que je peux annoncer sa titularisation officielle dans l'Entrepod. J'ai nommé Arnaud.
Bravo. Merci, bonjour.
Bravo Arnaud. Wow.
Comment voulez-vous que nous passions à côté de ce maître du quiz, de cet étalon de la bonne question au bon moment, de ce cannibale de la réflexion intellectuelle, de ce dandy de la chemise hawaïenne? Il est encore avec nous pour cette nouvelle saison, mais à mon avis, il n'a rien trouvé de mieux, sinon il se serait barré depuis longtemps. J'ai nommé Freddy.
Salut.
Et enfin, il est encore avec nous, mais bon, là, on n'a pas vraiment le choix. C'est lui qui a lancé l'idée de l'Entrepod, c'est lui qui a passé les auditions pour recruter quelques potes pour parler dans le micro, c'est lui qui a investi dans le matos de cette table. On n'a pas vraiment le choix, donc on va le garder, on l'aime bien quand même. J'ai nommé Nico.
Bonjour.
Salut Nico.
Mais dites-moi, auditeur, il n'y a rien qui vous choque là?
Mais oui, bien sûr.
Il n'y a rien qui vous chagrine?
Mais
eh bien, nous non plus. Un Entrepod sans nana, purement gonflé de testostérone, sans froufrou ni gnangnan, sans chanimard ni garlin, sans body pump à la con, sans alcool sur la table, un Entrepod entre nous, sans gonzesse pour nous faire chier tout simplement. Bordel, ce soir les gars, c'est champomis à volonté. On va pouvoir se coucher à l'heure qu'on veut. Il n'y aura pas les gonzesses pour nous faire chier. Mais, bordel, ouais, ok. Après, on dit ok, ouais, ok, je suis de mauvaise foi. Mais non, elle me donne du pain sur la planche. Ne pas venir à la première de l'Entrepod, c'est comme rater l'épisode 145 de Derrick, où on a une vraie course poursuite dans les rues de Berlin avec une BMW 525 de 1989 et une Opel Kadett de 86. Alors bon, si avec moi, elle serait directement licenciée, crucifiée, lapidée sur la place publique, je peux pas saquer ça, moi, je finirais pas par un seul mot, lâcheuse. Ce message était destiné à Didouille pour les body pumps et Sarlette pour l'alcool. Nico, c'est à toi.
Merci Marius, dis donc tu t'es...
Les gars,
ah tu laisses pas le refrain.
Tu t'es surpassé.
Le refrain. C'est bon,
ah, pardon.
Ça, non.
Ah quand même. Ah,
voilà. C'est vrai qu'on était bien lancé, c'est un peu dommage.
Moi je trouve pas qu'il s'est surpassé parce que chaud, bon ça va 5 minutes quand même. Merde, trouve autre chose.
Tu sais il est vite limité.
Ah,
hein.
Comment ça ouais. Fait du bien de les insulter les nanas. Ah.
Elles se vengeront sur toi la prochaine fois,
ne t'inquiète pas.
N'empêche, c'est une première là.
Bravo.
Oui,
bah
oui.
Exactement.
Merci. Wow.
On aime bien faire des premières. 100%
c'est toujours la sensualité qui va
exactement
manquer.
Exactement, nous, c'est.
Pour l'après-midi.
Ouf, ouais. Oh, les sensualités. Hein. Oh.
Ce qui est chiant, c'est que j'arrive jamais à faire aussi bien que quand je suis tout seul dans ma pièce.
Et bah fais-le dans ta pièce.
Et puis tu l'enregistres. Et
c'est
tu sais que tu nous donnes des idées. Tu l'enregistres chez toi, tu viens pas ici et on te passe juste.
Voilà. Mais tu sais, Marius.
Et maintenant tu as l'optique, tu vas pouvoir le faire tout seul dans ta pièce.
Marius, c'est un peu comme moi. Tu sais, quand je fais l'amour, je fais jamais mieux que quand je suis tout seul dans ma pièce.
J'avais bien vu, on se croirait grosse tête. Hein.
Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Hein, Marius l'a très bien présenté. Nous sommes donc de nouveau dans l'enceinte de Normandie Bulle. Donc pour la deuxième année consécutive. Classe. Et cette année, c'est l'occasion de la 20e édition de Normandie Bulle. Puisque lancé en 96, c'est la 20e fois que ce festival se tient. Donc, comme l'an passé, on a prévu quelques sujets, mais la priorité va bien sûr être aux intervenants qui vont bien vouloir se présenter à notre micro.
Priorité à l'actu.
Priorité à l'actu, comme nous le dit si bien Freddy, oui, exactement.
Et alors, d'ailleurs, on a quelqu'un qui vient de passer devant le stand, mais je ne pense pas que ce soit un invité. Bonjour, monsieur.
Et donc, Freddy nous a déjà dégoté quelques-uns. Enfin, on ne devrait pas être trop ennuyé pour avoir du monde. Comme
j'annonce un premier invité dans 5 minutes.
Oh la vache. 5 minutes, wow. Ça me laisse le temps de lancer le début de l'émission. Donc rapidement, on va vous expliquer ce qu'on a prévu de faire changer dans l'année qui vient, puisque l'Entrepod rentre dans sa troisième année. Et on a quelques principaux changements. Donc le premier qui a été déjà noté par Marius, c'est l'intégration officielle d'Arnaud, hein, ouais. Qui était en guest l'année dernière.
Il a
qui
eu m'a, son passage à la vie de tirage officiel, je crois, il y a deux semaines en fait.
Donc impeccable.
Et qu'est-ce qu'il a appris?
Bienvenue malgré Arnaud.
Tout. Un transfert à 2 millions d'euros, j'espère quand même.
Bon, on va amortir tout ça. Notre budget a pris un coup quand même. Donc ensuite, on a prévu de supprimer ou de modifier certaines rubriques. Oui, on va supprimer les filles. Donc certaines rubriques, histoire d'avoir des épisodes un peu moins longs et surtout pas forcément moins longs, mais plus carrés, plus rigoureux, on va dire. Donc notamment les retours sur les épisodes précédents vont être supprimés parce qu'on avait un peu trop tendance à refaire le débat éternellement, donc ça sert plus forcément beaucoup.
À ce propos, je voudrais
revenir sur un truc. Donc coup, on va continuer de faire ces retours, mais par l'intermédiaire des billets sur notre blog. Donc allez jeter un coup d'œil sur nos commentaires. C'est là-dessus qu'on fera part de nos retours.
Faites des efforts pour alimenter tout ça. En fait.
Exactement. Nous, le but, vous poussez. D'ailleurs, si vous allez sur le blog, vous pourrez voir qu'il a changé dernièrement. Donc, on y reviendra certainement plus tard. Mais c'est Starlet qui s'y est collé. Donc, voilà, on essaie d'avoir un truc un peu plus. Un élément central sur lequel on peut s'appuyer.
Entre deux moments de lucidité, je crois qu'elle a réussi. entre deux moments de lucidité.
Ludo, puisque tu parles, je vais dire aussi qu'on a supprimé une de tes rubriques.
Ah, c'est dommage.
La séquence post-générique. Bon, d'ailleurs, un peu à ta demande. Hein,
oui, il fallait passer un peu à autre chose.
Donc, voilà,
c'était quoi cette rubrique?
Donc voilà, cette rubrique qui finalement. Bon, voilà.
Non, mais c'est bien.
Qui a bien marché d'ailleurs pendant deux ans. Elle était très bien, mais voilà, on s'est dit qu'on avait passé un peu à autre chose. La rubrique à braque, notre fourre-tout, était justement un peu trop fourre-tout à notre goût, en fait. Donc l'idée, c'est de la remplacer par des chroniques personnalisées par chroniqueurs. Donc on est en train de réfléchir à tous ces sujets-là.
Donc, surtout moi.
Surtout toi, parce que t'as pas encore trouvé d'idée.
Prends ton temps. Hein.
Non, mais je suis pas pressé, moi.
Donc voilà les principaux changements. On a aussi envisagé, enfin on va mettre en place certainement une alternance entre épisodes avec et sans invité. Donc voilà, c'est une évolution assez importante. Et puis le blog, j'en ai parlé. Et enfin, on a une nouvelle rubrique que je vais inaugurer tout de suite, qui s'appelle le défi mot. Donc chacun va piocher un petit mot au hasard dans cette petite bonnette placer sans le dire aux autres. Voilà, gardez-le.
Donc alors, répète un peu les règles. Alors, on pioche un mot.
Vous piochez un mot.
On doit le placer dans l'émission.
Vous devez le placer dans l'émission.
Sans dire aux autres de quel mot il s'agit.
De quel mot il s'agit. Et c'est aux autres un peu de deviner, de faire un. Hop, j'ai deviné qu'il a placé un mot. Voilà.
Oui. Bon, mais
attendez. Et vous entendez derrière que nous sommes en plein dans le festival et du coup les annonces.
Ambiance.
Vous êtes en plein dedans. Là, vous pouvez pas être plus au centre du festival. Donc
il faut quand même préciser qu'on a quand même une place. De choix.
Oui, nous avons une place de choix avec le podium des remises des prix qui est juste à côté de nous.
Exactement, à 4 mètres du podium.
Exactement, Freddy a mesuré tout à l'heure avec en prenant 80 cm de pas entre jambes. Voilà.
J'ai compté avec mes pouces comme ça.
Ça va être compliqué quand même. Et moi, j'ai un mot, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ah, c'est le problème.
C'est du jeu, mon intérêt.
Bah ouais, mais comment on va placer un mot si on ne connaît pas son sens?
Tu l'improvises, t'improvises.
C'est le but du jeu.
D'accord.
That's the game.
D'accord.
C'est de vous coller une petite pression supplémentaire.
Et donc la finalité, tu connais les mots de chacun, enfin ou les mots
non,
que tu as.
Non, je sais pas ce que vous avez pioché, mais je sais quel mot j'ai dit.
Ça me stresse bien comme il faut. Oui.
C'est encore plus compliqué que Secret Story, votre pote. Voilà, ouais. On verra si ça marche ou pas. Si ça marche.
Mais
pas.
Tu sais, je sens que anticonstitutionnellement, normalement, tu devrais t'en sortir.
Mais imagine que ça a une connotation un peu particulière et que je l'utilise dans un autre sens.
Mais je l'aurais pas dit.
Et Christophe, je crois qu'il y a des points à gagner.
Ah tiens, oui, on rajoute au point.
Et au bout des points, ça fait partie du quiz, donc.
Bah oui. On peut rajouter ça, tiens. Allez, allons-y. Soyons fous.
Je m'en fous, on repart à zéro. Donc.
Suite à ce petit défi, on va voir si chacun arrive à placer son mot. Un petit rappel ou une petite présentation. On a lancé un site de financement participatif Tipeee. Donc beaucoup d'infos sur notre blog. On va pas revenir dessus. On va pas vous solliciter plus que ça. C'est juste pour ceux qui ont envie de nous soutenir. Ben voilà, on a mis en place ce système-là pour plus d'infos. Allez sur le blog ou sur notre page Tipeee directement et vous en saurez plus. Et d'ailleurs, on remercie Bouli, notre premier tipeur qui a investi sur nous. C'est quand même bon, on n'aurait pas forcément cru, mais merci Bouli.
Il a du fric à perdre, hein.
Super sympa. Et puis bon, on rentre directement dans le
ça va pas être possible du tout avec le monsieur à côté là.
Il est pas à côté, il est par là. Attends, je laisse un petit peu.
À la radio, on voit pas si c'est à côté droite ou côté gauche.
T'as oublié de préciser que pour le quiz, on repartait à zéro.
Eh oui, exactement.
Ah,
oui.
Alors là, ça va chier. Défoncez votre race.
Je pense que c'est intéressant effectivement de faire un quiz qui part à zéro à chaque début de saison, en fait.
Exactement, parce qu'effectivement, on perdait un peu les scores. Arnaud qui arrivait en cours, il partait avec 25 points de retard sur Ludo. C'était un peu compliqué.
C'était
un peu compliqué.
Alors avec Marius, on a décidé de s'associer.
Je vois notre invité qui s'approche.
Donc nous allons laisser notre invité passer et ça tombe bien puisque nous allons laisser se joindre à nous et ça tombe bien puisque on allait rentrer justement dans le vif du sujet. On présentera Normandie Bulle un petit peu plus tard et voilà notre premier invité.
Elle a une belle chemise.
Une belle chemise.
Bonjour.
Donc déjà
bonjour.
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 Bonjour tout le monde.
Freddy, bah écoute, on va te laisser présenter puisque
Absolument.
C'est toi qui fait venir notre invité à nous.
Alors notre premier invité de cette 20e édition de Normandie Pulle, festival de bande dessinée. Notre invité s'appelle Julien Hugonard-Bert. Attention, on ne dit pas le T à la fin.
Eh oui,
Julien
Hugonard-Bert.
Ok. On est très bien. Monsieur est peut-être susceptible sur le sujet, alors on déconne pas.
Okay, alors, de toute façon, une seule personne dit Hugonard-Bert, je me casse.
D'accord. Marius,
ambiance.
Prévenu, ok. Parce qu'il a une mémoire de poisson rouge.
Donc. Son prénom, c'est quoi? Ce sera plus simple.
Julien. Voilà. C'est Julien. Julien est encreur. Alors Marius me demandait tout à l'heure si l'encreur c'était bien le gars qui était à l'avant du bateau et qui jetait le gros truc en fonte dans l'eau pour immobiliser le navire.
Super intéressant comme boulot. Alors.
Non, Marius. Ça. Marius, ça c'est l'encriste.
Ouais. L'encreur c'est le type qui remplit les petits flacons, tu sais, à la main.
Voilà, c'est ça. Non, l'encreur, Julien va nous raconter, il va faire ça beaucoup mieux que nous. Il va d'abord se présenter et puis nous dire en quoi consiste le fait d'être encreur.
Oui, donc bonjour tout le monde, je suis encreur en effet, comme vous disiez. C'est-à-dire que je travaille en duo avec un dessinateur et à tous les deux, nous faisons le dessin. C'est-à-dire que le dessinateur, il part de la page blanche, il commence son dessin au crayon et moi j'interviens à la suite du dessinateur et en quelque sorte je termine son dessin à l'encre de Chine. D'où le terme de encreur. Donc je travaille au pinceau, à la plume, au feutre parfois et voilà.
Alors, c'est plutôt assez rare en France. C'est une pratique qui est plus courante aux États-Unis.
Oui, c'est une pratique qui vient vraiment des États-Unis. Quoiqu'en France, il y a déjà eu des encreurs. Hein. On sait qu'Hergé ne terminait pas tout à fait ses dessins et qu'il était aidé notamment par Edgar Pay Jacobs pour faire D'accord. les décors et notamment certains ancrages. Mais c'était souvent le nègre du dessinateur, en fait, qui venait terminer ses dessins. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui a toujours été fait depuis quelques 80 ans, à peu près. Parce qu'aux États-Unis, il faut faire 20 pages par mois et donc il faut un peu dépoter.
C'est une question de productivité, quoi, surtout, en fait.
Exactement.
Ils ont découpé les tâches.
Exactement. Donc il y a un dessinateur, un encreur, un coloriste, un lettreur. Tout ça se fait étape par étape.
Taylorisme de la BD.
Exactement. Tout vient de là. Hein. Ouais,
ouais. Est-ce que ça dilue pas la notion d'auteur ou dessinateur un petit peu? Ou non, en fait, on peut être connu vraiment...
Eh bien, oui. Automatiquement, bien sûr que ça dilue. Maintenant, il faut savoir une chose aux États-Unis, c'est que l'auteur, en fait, celui qui garde les droits d'auteur, c'est l'éditeur. C'est lui qui est propriétaire des personnages.
D'accord.
Donc, hormis quelques exceptions, quand on achète une BD de Batman ou de Superman, on achète pour Batman ou pour Superman, on l'achète pas pour l'auteur.
D'accord.
Donc, c'est un petit peu particulier.
Alors, on parle beaucoup des États-Unis, mais c'est pas par hasard, parce que tu travailles avec les Américains,
c'est
entre
exact.
Autres.
Voilà, donc j'ai déjà travaillé pour Marvel, pour Avatar, et plus récemment j'ai travaillé pour Dark Horse sur une BD Star Wars, ou pour DC Comics, donc encore une fois.
Excusez du peu.
Bah, pardon.
Voilà. Wow. Pour Injustice, c'est ça?
Pour Injustice, c'est exact.
Alors justement, Injustice, c'est vraiment dans l'actu, là, puisque la version française est sortie ces jours-ci.
Et est épuisée.
Ah, déjà, waouh!
Wow.
Et toi aussi?
Ça va revenir. Et... Moi, toujours un peu.
Oui, Ludo.
Ah, pardon, vas-y, Christophe.
Christophe.
Avant d'entrer dans les détails de ce que tu fais, moi, je voudrais revenir sur la technique parce que ça m'interpelle.
Christophe est notre dessinateur. Hein, voilà.
Quand on est encreur, est-ce qu'il faut avoir au préalable un talent de dessinateur, c'est-à-dire au même titre qu'un dessinateur auteur? Ou alors, est-ce que il y a
c'est plus la précision de repasser sur des traits qui est important, ou c'est les deux peut-être?
Ouais, c'est ça.
Un peu des deux, en fait. C'est-à-dire que il faut un peu voir le. Si on doit faire une analogie, c'est un petit peu comme les médecins. On va avoir en France, on va avoir des dessinateurs qui vont être comme des médecins généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont faire le crayonné, l'ancrage, peut-être même la couleur, parfois même le scénario. Aux États-Unis, il y a un médecin spécialiste. Ça va être celui qui va être spécialisé, d'accord. Donc vraiment du crayonné. C'est-à-dire que lui, il va vraiment s'occuper de la narration, il va s'occuper de la perspective, de toutes les notions d'anatomie. Moi, je vais être le dessinateur plutôt spécialisé dans l'encre. Alors moi, je vais plutôt m'intéresser à la qualité de la ligne, aux ombres, à la façon de retranscrire des dégradés, donc avec des trames croisées, par exemple. Et ça devient très spécialisé.
C'est super technique.
Oui,
donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir... Un espèce de talent de dessinateur à minima, quoi. On peut pas s'improviser. C'est-à-dire que il s'agit pas de.
Désolé.
Il s'agit pas de repasser juste sur les traits, quoi. C'est ça que je veux dire.
Non, ça ne suffit pas. De toute façon, un dessinateur, ce n'est pas ce qu'il cherche. Il cherche vraiment un partenaire pour compléter son dessin, pour terminer son dessin et l'améliorer. Donc, Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un encreur est un dessinateur qui dessine le dessin d'un autre avec sa main.
D'accord.
Je ne me contente pas de repasser ses traits, mais en fait, je dois comprendre comment le dessinateur dessine pour le redessiner de façon naturelle et fluide par-dessus son trait.
D'accord.
Ou parfois un tout petit peu à côté, mais en fait, on s'en fiche. L'essentiel, c'est d'avoir vraiment l'intention du dessin.
On appelle ça déborder quand on passe à côté.
C'est ça. Ouais.
Voilà. Moi, j'engueule ma fille quand elle fait ça sur ses crayons, sur son coloriage.
Donc, il faut retranscrire, en fait, l'âme, la substance.
Oui,
c'est de ce ça, qu'a voulu faire le dessinateur crayonné. Quoi.
C'est ça. Et puis quand on travaille en duo de cette façon-là, on finit par se connaître. C'est-à-dire que le dessinateur, il sait ce qu'il va obtenir de moi et moi, je sais ce que le dessinateur attend. Donc parfois, le dessinateur, il va juste me faire des ronds en me disant « Bon, là, c'est la foule, on s'en fiche un peu, mets des têtes. »
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'il faut savoir un petit peu dessiner. D'accord. Quand même.
Et alors justement, quel est ton parcours et comment t'es-tu orienté vers cette spécialisation d'encreur?
Bon, alors moi déjà de formation, je ne suis pas du tout de la partie, je suis ingénieur en conception mécanique.
En effet.
Ah oui, effectivement, voilà. Raconte-nous ton parcours là. Là, t'es obligé là.
Là, bah,
de longues
études, ça mène à tout, c'est la preuve. Ouais. Puis après avoir joué 5 ans à l'ingénieur, je me suis réorienté pour faire autre chose et à ce moment-là, j'avais souhaité peut-être travailler dans tout ce monde du comics mais sans trop savoir et j'ai toujours dessiné. Moi-même. J'ai toujours dessiné à l'école depuis que je suis enfant. Et je vais vous expliquer d'où ça vient l'ancrage. Ouais. Au moment où je montrais mes dessins quand j'habitais à Tours à un atelier de dessinateurs qui s'appelle l'atelier Pop, les gens de l'atelier de Pop m'ont dit ben c'est chouette ce que tu fais mais tu gâches tout avec ton ancrage parce qu'il est un petit peu pourrave.
Et ça c'est clair. C'est comme ça. Retrouvez-le sur la saga Star Wars.
Exactement. Bah, depuis je me suis peut-être un petit peu amélioré. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là on m'a conseillé d'utiliser des outils qui n'étaient pas des feutres calibrés mais plutôt de la plume ou du pinceau pour essayer d'avoir des pleins, des déliés et d'améliorer mon ancrage. Et d'une chose à l'autre, je me suis de plus en plus pris au jeu et c'est l'ancrage que je préfère faire dans mes propre dessin. Et quand D'accord. il a fallu choisir une profession dans le monde du comics, je suis parti sur l'ancrage.
D'accord.
Oui, Ludo, vas-y. Moi, j'ai une question. Du coup, alors, ok, t'es parti dans l'ancrage, mais comment tu es arrivé à travailler avec Marvel, avec DC Comics?
Oui, c'est vrai.
Enfin,
que
là, pour le coup,
moi,
c'est...
si je m'y mets demain, il y a peu de chance.
Moi, lecteur de comics, quand je suis gamin, c'est un univers, quand j'étais gosse, qui m'a fait rêver. Donc, je me dis toujours, voilà, comment tu as fait pour passer du...
Déjà, merci l'Internet. Sans Internet, je pense que ça n'aurait pas été faisable.
Ah, ouais.
Parce que sans l'Internet, il faut vivre à proximité, il faut pouvoir envoyer les planches, mais au moins vivre à proximité pour avoir les contrats. Tandis qu'avec l'Internet, on peut envoyer des candidatures spontanées auprès des éditeurs. Donc ça, c'est faisable. Puis ça me permet de travailler depuis Rouen. Moi, j'habite à Rouen, donc je travaille depuis chez moi. Ensuite, la façon dont ça s'est passé, j'ai fait un salon à Bristol, en l'occurrence, donc en Angleterre, où j'ai rencontré divers professionnels de l'industrie du comics. Et c'est là où j'ai rencontré des gens de chez Panini Angleterre qui font de la BD la BD pour un jeune public avec les super-héros Marvel. Et ce sont mes premiers contrats. Mon premier contrat, c'était Iron Man.
Panini qui distribue aussi Marvel en France, enfin qui distribue peut-être, non ?
Toujours. Dans la plupart des pays d'Europe.
D'accord.
Bah moi, mon premier contrat, c'était à l'usine et je faisais des livres. Lui, c'est Iron Man. Ouais. Vois,
moi, j'ai travaillé en pâtisserie, même la nuit, quand j'étais gamin.
Ah bah, juste un petit mot sur ta présence ici à Normandie Bulle. Oui. Le livre est épuisé, mais tu as une autre actualité. Tu dédicaces d'autres livres ?
Oui, je dédicace déjà tout ce qui est toujours dispo. Donc, Masqué, Le Sang du Dragon, Star Wars... tout ça, il n'y a pas de problème, je dédicace. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant de ne pas avoir sa dernière nouveauté de présente.
C'est incroyable ça quand même.
Ouais, c'est...
Mais est-ce que c'est un problème de prévision ou vraiment ça a cartonné?
Mais peut-être un petit peu des deux. Alors, peut-être que je vais être prétentieux en disant ça, je ne sais pas. Je pense que les éditeurs savent que d'un tome à l'autre, les ventes baissent un petit peu et peut-être qu'ils ont pensé que les ventes allaient baisser entre le 2 et le 3. Et le fait qu'il y ait un artiste français qui ait travaillé sur la BD,
buzz.
J'ai fait de la promo un petit peu là-dessus et peut-être que ça a porté plus de ventes. Ça, je le dis sans savoir.
D'accord.
Parce que c'est sorti il y a quoi? Il y a 3 semaines, un mois, c'est ça?
C'est ça, un petit mois.
Ouais. J'ai une question. Est-ce que tu choisis des collaborations? Ou est-ce que c'est l'éditeur qui vous met en relation, le dessinateur, l'encreur et le coloriste ensemble?
La plupart du temps, c'est le dessinateur qui va être prescripteur. C'est lui qui va dire à son éditeur « J'aimerais travailler avec machin ou bidule à l'ancrage ou à la couleur ». Donc c'est comme ça que la plupart du temps ça se fait. Il m'est déjà arrivé d'avoir un contact direct avec un éditeur, c'est-à-dire qu'il m'a mis avec un dessinateur comme ça, sans qu'on ait eu notre mot à dire, mais souvent c'est le dessinateur qui me permet d'avoir mes contrats.
Et tu as eu l'occasion de rencontrer physiquement, je dirais, tes collègues de plume aux États-Unis,
Outre-Atlantique.
Outre-Atlantique.
Oui. Alors, souvent, ce sont des dessinateurs français, d'ailleurs, qui font appel à moi.
Olivier Coipel, par exemple.
Alors, Olivier Coipel, on se connaît. Je n'ai jamais travaillé avec lui, mais on se connaît parce qu'on s'est croisés plusieurs fois en salon. Voilà, on se connaît, on s'entend très bien. Olivier est vraiment un chouette gars. Mais sinon, je travaille avec Stéphane Créti, Stéphane Roux. J'ai travaillé avec un Espagnol qui s'appelle Bruno Redondo. Ce sont des gens que je croisais en festival. À cet instant T, ils avaient besoin d'un encreur. On a fait un essai ensemble. Et lorsque ces dessinateurs-là ont été engagés, par exemple Stéphane Roux chez Dark Horse pour faire du Star Wars, Stéphane Roux m'a tout de suite appelé pour savoir s'il était possible que je l'encre.
D'accord.
Alors on parle beaucoup de salons. Tu étais notamment présent aux États-Unis l'an dernier pour le Comic Con. C'était l'an dernier? Non, il y a deux ans.
Non, l'an dernier et il y a deux ans aussi.
Tu peux nous raconter un petit peu cette
Comic
expérience?
Comic Con de New York, c'est ce que tu me disais.
Oui, c'est ça. À New York. Tout à fait. Oui, c'est la folie.
Ouais, c'est impressionnant.
C'est la folie, c'est-à-dire.
Tu as été invité déjà?
Non. Non, alors,
il a forcé la porte, il est passé par l'entrée.
En fait, je préparais les sandwichs.
Et c'est la folie.
Il y avait du monde, hein.
Mais les salons américains, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un artiste allé, où ce sont des artistes. Alors, il faut qu'ils aient publié, donc il faut qu'on présente un dossier quand même pour que l'organisateur de la Comic Con nous accepte dans l'artiste allé. Mais cet artiste allé, en fait, c'est un endroit où chacun paye sa table. Pourquoi ? Parce que aux États-Unis tout est payant. Mmh. C'est-à-dire que les BD n'ont pas de page blanche aux États-Unis, il n'y a que des pubs.
D'accord.
De pages de BD.
Ah oui.
Et donc si quelqu'un veut un dessin, ce n'est pas sur la page de garde d'une bande dessinée, c'est sur feuille. Mais puisque c'est sur feuille, c'est une commission, donc c'est payant.
Ah ouais.
Et aux États-Unis, on est un petit peu considéré comme des exposants, des commerçants. Et donc la table est payante. Et derrière, on vend des prints, on vend des dessins originaux, on vend des sketchbooks, etc.
C'est pas la même approche, effectivement.
Ouais, pas du tout.
Alors, c'est un petit peu la même approche dans les salons comics en France. Parce que pour pouvoir avoir des auteurs américains, parce que imaginez bien qu'un auteur américain habitué à aller à New York, où le moindre dessin se négocie à quelques dizaines de dollars, voire centaines, suivant le cas, le bonhomme, c'est assez difficile de le convaincre de venir à Paris pour s'enfermer dans un hangar pour faire des dessins gratuits pendant deux jours.
Effectivement. Et là, il y a deux gros événements là qui s'organisent cette année, dont il y a eu des annonces. Là, il y a le Comic Con France qui change un petit peu de ce qu'il y avait jusqu'à présent, et puis Paris Comics Expo dont les premiers noms sont tombés cette semaine. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu vas participer ou...
Oui, je serai sur le stand de Delcourt. J'ai été invité par Delcourt pour promouvoir Star Wars à la Paris Comic Con, enfin la Comic Con de Paris, on va le dire C'est au mois d'octobre, c'est fin octobre. Donc je serai également au Paris Manga la semaine prochaine, Manga et Sci-Fi Show.
D'accord.
Donc avec d'autres acteurs de séries télé, des dessinateurs de comics, de manga, etc. Mm-hmm. La Paris Comics Expo, c'est un petit peu tôt là pour l'instant. Maintenant, si on veut de moi, je viendrai.
On lance l'invitation.
Voilà. Une question alors par rapport à Star Wars. T'as un avis sur le relaunch complet de tout l'univers Star Wars en BD là, qui est en train de se faire avec la sortie du prochain épisode, ou tu ne peux pas en parler ou...
Non, je peux en parler. Ce n'est qu'un avis personnel. Moi, j'ai toujours travaillé avec Dark Horse. Dark Horse, qui était l'éditeur de Star Wars historique pendant quelques 22 ans, c'est eux qui se sont occupés de Star Wars avant la nouvelle trilogie, avant les épisodes 1, 2, 3, avant tout ça, à des périodes où peut-être Star Wars était un petit peu dans le creux de la vague. Donc, à titre personnel, vraiment personnel, je trouve que la décision de Disney de donner la licence à Marvel pour exploiter Star Wars en BD chez Marvel plutôt que chez Dark Horse, moi je trouve que c'est pas réglo vis-à-vis de Dark Horse. Ensuite, à titre plus professionnel, ayant toujours travaillé avec Dark Horse, c'est avec Dark Horse que j'ai des contacts. J'ai relativement peu de contacts avec Marvel. Donc, moi-même, je ne travaille pas chez Marvel sur les BD Star Wars. Et encore une fois, pour revenir au titre personnel, je ne le lis pas parce que ça me fait un peu mal au cœur de voir la licence partir chez un autre éditeur.
D'accord.
Ensuite, j'ai toujours entendu dire que ces BD étaient de très bonne qualité, qu'elles étaient fun, bien écrites, avec de bons auteurs. Je n'ai pas de problème avec ça.
D'accord.
Bon joueur alors.
Bah, oui,
fair play.
Oui. Ben non, mais on est toujours un peu aigri parce que.
Non, mais c'est ce qu'on fait.
On y a passé du temps. Moi, pour moi, ça m'a fait perdre du boulot. Pour les gens avec qui j'ai travaillé, avec qui je m'entends bien, bon, bah, c'est une grosse perte de chiffre d'affaires. Dark Horse, c'est bon, s'en sort parce qu'ils ont réussi à choper d'autres licences, à sortir d'autres BD, mais c'est quand même un gros fond de catalogue qui a été perdu. Je crois savoir, bon, enfin, bref, que le fond de catalogue a été racheté par Marvel pour des prix très faible, donc ça n'a pas été tout à fait réglo pour l'éditeur. Bon, ça ne me regarde pas, c'est des histoires d'éditeurs, mais j'aime bien les gens chez Dark Horse, donc ça me dérange.
D'accord. J'ai passé. Freddy, je te laisse.
Non, c'est bon, peut-être question. C'est bon.
Je change un peu de sujet. Est-ce que tu as des projets de BD solitaire, c'est-à-dire où tu ferais le dessin, l'ancrage évidemment, éventuellement faire appel à un coloriste, c'est-à-dire est-ce que tu as un scénario dans ta tête qui pourrait finir sur papier?
Bon, pour tout dire, actuellement, la position d'encreur n'est pas une position très très enviable dans le marché du comics. Ça devient de plus en plus difficile avec le matériel informatique, le type 5 tic, etc. C'est pas évident tous les jours. Donc je suis en train de plus en plus de me réorienter pour devenir dessinateur à proprement parler. Donc je travaille là actuellement sur un scénario de Thierry Mornay sur un personnage qui s'appelle le Garde Républicain, qui est une sorte de Captain America français. C'est un comics, donc mais made in France, donc là que je vais dessiner.
Un peu beauf, tu veux dire, du coup?
Non,
je crois pas, c'est même très Freddy, voyons. Oui,
oui. Non, a priori, quelque chose...
C'est parfois des histoires d'espionnage, c'est vraiment pas mal, quoi. Enfin, moi j'aime bien, je suis fan, quoi. Et par ailleurs, oui, j'ai une idée de scénario, alors là, qui n'est pas du tout ni super-héros, ni années 70, rock'n'roll, groupie, meurtre, tout ça.
Ah ouais.
Ah, ça j'adore. Ça c'est moi aussi.
T'as du client à la table.
Ouais. Tu adores les meurtres ?
J'aime bien cet univers-là, en fait.
Ouais, généralement, on n'a rien contre les groupies.
Aussi.
Au sein nu.
Ça court pas les allées de ce salon, mais.
Aussi.
En fin d'après-midi.
On n'a pas le même statut que toi, Julien, ça doit être ça, je pense.
Et bien, peut-être qu'il est temps de remercier Julien. On était donc en présence de Julien Hugonard-Bert, encreur de son état, présent sur le festival Normandie Bulle pour présenter ses différents ouvrages et qui est dans l'actu pour Injustice. Qui est épuisé, mais on imagine que ça va ressortir.
Je pense que donc c'est le tome 3 et 4 sur lesquels j'ai travaillé. Le tome 3 est sorti il y a un petit mois, le tome 4 sort d'ici quelques semaines, donc je pense qu'au moment où le tome 4 sera dans les bacs, le 3 sera à nouveau là. D'accord. J'imagine.
Et pour ton projet années 70 rock'n'roll groupie, on peut espérer ça quand? Est-ce que c'est un projet?
C'est du long terme.
Lointain.
Ouais, c'est un petit peu du long terme parce que c'est quelque chose que je finance moi-même. Oui. Je suis désolé de parler de ça, mais.
Non, mais ça fait partie de la réalité. Voilà.
C'est la réalité,
Il faut bouffer entre temps.
Il y a peut-être un financement participatif, non?
Je pense que quelque chose comme ça sera imaginable. Peut-être. L'Internet nous permet de faire plein de choses. L'outil informatique, comme je disais, avec la Syntique, remet des choses en question pour la profession. Toutefois, le webcomics, le financement participatif, le mécénat par Internet, il y a énormément de possibilités pour s'auto-éditer. Des imprimeurs sur le web qui sont à des prix défiant toute concurrence. Je dirais presque qu'on a presque plus besoin d'un éditeur pour certains projets perso. Ensuite, on a toujours besoin de ces structures-là pour pouvoir diffuser les BD.
C'est la distribution, en fait.
C'est un tout autre problème, ça, c'est certain.
En tout cas, tu peux compter sur l'entrepote, puisque tu n'es pas sans savoir qu'ici, on fait et on défait les carrières.
Super. Et ben, t'étais peut-être sans le savoir, mais tu vas t'en rendre compte.
Ouais, ça me fait bien.
Et grâce à nous, tu ne connaîtras pas le sort réservé à Pouilly, le dernier encreur. En tout cas, merci à toi d'être venu.
Merci, Julien.
Merci beaucoup.
C'est quelques minutes à notre micro. Et merci. Bonne fin de festival à toi alors.
Merci.
À
de
plus
même.
Tard.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
J'ai rencontré Julien. Enfin, j'ai contacté Julien. J'avais lu quelques articles sur lui parce que c'est pas la première fois qu'il fait parler de lui en tant qu'encreur rouennais. Donc forcément, ça intéresse un peu la presse. Mais j'ai contacté Julien il y a 15 jours pour faire un sujet dans le Périscope.
J'ai vu dans le Périscope. Ouais.
Voilà. Et donc je l'ai vu travailler et c'est assez impressionnant parce qu'il a une technique très précise dont il n'a pas dévoilé les secrets évidemment, mais c'est une espèce de mécanique comme ça où il tourne la feuille, il fait un petit trait, tac.
Ouais, je l'ai vu sur internet.
C'est assez impressionnant à voir, je veux dire.
Par contre, peut-être que tu le sais, il parlait à un moment de scintillement.
De scintillement.
De scintic.
Ah, de scintic.
La technique numérique.
Numérique, oui.
C'est quoi?
Ah, ça, je sais.
Alors,
pas.
Je sais pas. Parce
j'ai pas osé
pas,
parce que je me suis dit, je vais avoir l'air con.
Bah, pourquoi?
Non, on aurait tous eu l'air con parce qu'on sait pas ce que c'est.
Ils doivent tous savoir ce que c'est, donc je me tais.
Ils travaillent assez avec l'ordinateur.
Tout le monde sait ce que c'est. T'as vu qui est en face de toi, non?
Hein? Mais pas.
Pas tant que ça. Ils travaillent pas tant que ça à l'ordinateur. Contrairement à Steve Baker qui nous a dit faire maintenant 100% de son travail avec la ouais, tablette.
De toute façon, il ne sait rien faire de ses doigts, lui. Donc.
Je l'ai vu tout à l'heure. Tu croyais quand tu serais venu, l'enfoiré?
Si, il a dit qu'il
lui fait sa carrière.
Mais c'est vrai que la tablette, c'est pratique parce que.
Un gras.
J'imagine à l'encre,
oui.
Tu fais une bavure, tu refasses la planche.
Mais là, quand on le voit faire, on n'imagine même pas qu'il puisse se tromper, en fait. Tellement c'est tac, tac. La précision, la mécanique du geste, c'est assez impressionnant, quoi.
Eh ben, écoute. Bon, je vais reprendre le fil pour présenter un peu le festival dans son ensemble en attendant qu'on ait un autre invité qui se joigne à nous.
Alors, nous aurons peut-être Jean-Marie Minguez à ce micro.
C'est vrai?
Qui est un auteur rouennais que j'ai alpagué pendant que Julien parlait au micro et qui m'a dit...
Ah, c'est lui qui était là tout à l'heure? Parce que j'avais jamais vu son visage. Et effectivement,
oui, oui.
Ce monsieur... Ah, d'accord.
Si ça vous intéresse.
Ah bah carrément, oui.
Ce monsieur sera peut-être là tout à l'heure.
Un proche de Monsieur Rêve également, je crois.
Absolument.
Donc bah, Normandie Bulle cette année pour la 20e édition, c'est le festival auquel nous participons. Hein, donc avec encore merci encore l'équipe d'organisation, mais c'est aussi divers événements annexes, pardon. Donc nous cette année nous sommes dans les tennis couverts, comme l'a dit Marius tout à l'heure, on a la chance d'être en plein cœur de l'événement et de.
On est au chaud.
On est au chaud. Ça, on est au chaud.
Ouais, mais parfois, on est aussi couvert par le
par
présentateur.
Par le bruit, ouais, mais bon, ça c'est.
Non, pas par
ouais,
le bruit.
Mais bon,
c'est inhérent à l'organisation, c'est que ça vit aussi, hein, donc tant mieux.
Non,
hein,
mais c'est pas le bruit. Ouais. Hein.
Non, mais c'est le son, effectivement, de la sono. Mais, non, bon,
mais c'est surtout qu'on a monté d'un cran, quoi, faut dire.
Alors que Christophe est également en dédicace au stand de l'entrepreneur. Oui.
Faites des photos.
Ah ouais, joli. Marius, faut que tu prennes une photo de ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, Normandie Bulle, ça s'est ouvert en 96, uniquement sur le territoire de Darnétal. Maintenant, 20 ans plus tard quasiment, c'est devenu le premier salon de Normandie, visiblement. Et au-delà de notre week-end auquel nous participons, ça dure sur 3 semaines, voire plus, dans différentes villes de l'agglo de Rouen. Donc, Mont-Saint-Aignan, Canteleu, Roissel, Rouen. Mais ça va aussi jusque...
Roissel même.
J'ai dit Roissel, pardon. Oh, pardon. Excusez-moi, Oissel, Rouen. Et ça va même jusqu'au Pays de Bray, Gournay-en-Bray, Esteville pour d'autres villes, etc.
C'est dire.
Esteville.
Donc, ouais,
Esteville.
Esteville, je pense.
Putain.
C'est quand même dingue. C'est très...
La ville de l'abbé Pierre.
Et donc, bah, pour se rappeler, les organisateurs de Normandie Bulle promeuvent un peu la bande dessinée comme genre littéraire à part entière. Et du coup, pour concrétiser tout ça, ils ont mis en place plusieurs trophées. Donc, le prix du jeune public, qui récompense la meilleure publication destinée à la jeunesse, un concours amateur dont la thématique de 2016 est la liberté, les prix professionnels qui récompensent les meilleurs scénarios d'auteurs confirmés, et le prix hors les murs sélectionné par les lecteurs d'établissements pénitentiaires, puisqu'effectivement on avait déjà évoqué cette action qui consiste à faire lire les gens dans les prisons, donc c'est plutôt une bonne démarche. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des événements en marge de ce festival. On peut évoquer par exemple, alors moi j'en ai noté quelques-uns, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, l'exposition Bajram à l'hôtel de région. Donc Arnaud, toi tu y es allé la semaine dernière, peut-être tu peux nous en parler.
Tout à fait, j'y suis allé dimanche dernier.
Parle bien dans ton micro, c'est pas parce que t'es nouveau que...
Hein. Bon. Ouais. J'y suis allé dimanche dernier, c'est génial d'aller voir les expos à l'hôtel de région le dimanche après-midi parce qu'on était tout seul.
Ça c'est top.
Non, ce qui est très chouette, c'est de voir les planches. J'ai imaginé que c'était, puisqu'il y avait du coup personne pour nous expliquer, ouais. Mais j'ai imaginé que ce sont ces planches de travail originales, donc dans une dimension supérieure évidemment à celle des albums, avec un travail de collage, vraiment collage à la main, un petit collage papier, etc. pour les zones qui se refont. Et puis certaines planches très sympas avec, notamment j'ai en tête une planche avec un marsupilami. De science-fiction, on
d'accord.
va dire.
D'accord.
Très spectaculaire.
Donc ça c'est jusqu'au 10 octobre, donc à l'hôtel de région. Et moi ça me donne bien envie d'y aller, peut-être un dimanche justement, d'après ce que tu nous dis. On a l'air d'être un peu tranquille.
C'est jusque quand?
Au 10 octobre, c'est ce que je viens de dire.
Ah d'accord, pardon.
Si je t'ennuie, t'as qu'à le dire. Il y a une autre exposition qui se tient, elle, jusqu'au 23 décembre. Donc, on a un peu plus de temps. Je vais essayer de parler par-dessus, par-dessus la voix.
Je pense pas qu'on l'entende tant que ça.
Non, je pense pas. On verra bien au montage. Hein.
Donc, nous, sur les fêtes foraines, on
en
avait
parlé. En fait, Marius m'en met plus, en fait, finalement.
Tiens la bourre.
Donc, l'exposition La Maison des Super-Héros, qui se déroule à la Maison de l'Architecture. Donc, comme je l'ai dit, jusqu'au 23 décembre. Et donc, qui parle de... dont le thème, c'est « En quoi la BD américaine et ses héros se sont fait le miroir critique de nos cités tout au long du XXe siècle. » Et donc ça se fait à travers de nombreuses illustrations, maquettes, esquisses, et divers produits dérivés. Donc l'influence de la pop culture un petit peu, et comment elle se... l'influence réciproque un petit peu, comment elle s'inspire de notre univers.
Tu parles si bien.
Merci. Arnaud, toi tu dois connaître parce que c'est à l'espace François Mitterrand, ça.
L'espace François. Je crois pour moi, l'espace François Mitterrand, c'est Loisel.
Non, après, justement, ce que j'allais dire. Le sujet suivant, c'est l'exposition Magasin Général de Loisel.
C'est ça.
Qui, elle, se déroule. Si vous voulez y aller, si vous êtes dans le coin, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Donc, c'est une exposition sur l'œuvre créée par Régis Loisel et Jean-Louis Tripp, qui chronique une communauté rurale dans le Québec des années 20. Donc, a priori, c'est assez croustillant. Je ne connais pas, moi, cette série.
Virginie avait lu les premiers, moi, de mémoire, j'ai jamais lu. Et en fait, à Cantele, là, c'est la reconstitution du décor.
Voilà,
de
c'est ça. C'est vraiment une mise en scène qui a l'air assez sympa. J'ai vu quelques photos sur Relicto, notamment. Dans les événements passés, donc ça, c'était avant-hier. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont pu y aller, mais c'était une table ronde. Et si l'histoire avait pris un autre chemin, donc à laquelle participait notamment Fred Duval. Il a dû y aller, visiblement, je pense qu'il est allé ce coup-ci.
Alors, moi, l'histoire a pris un autre chemin, puisque je devais y aller, puis je suis allé voir Nord à Paris.
Donc... Ah, d'accord. Bon, on reviendra de suite alors.
Nad, que tu nous racontes ça.
C'était une table ronde sur les mondes du chronique. Donc, ça pouvait être quelque chose d'assez intéressant. Il y a eu également mercredi, un BD concert au cinéma Ariel de Mont-Saint-Aignan, avec une mise en musique de certaines planches de Mathias Lehmann,
voilà. Qui a écrit donc La Favorite.
Et dans les événements à venir, je crois qu'Arnaud, toi, tu comptes y aller, tu nous en as parlé, c'est un autre BD concert.
Ah, c'est une uchronie, mais à l'avance, en fait, je sais pas comment ça s'appelle. Je comptais y aller, mais je ne pourrais pas y aller.
D'accord, l'histoire a pris un chemin différent, encore une fois.
Bon, à nouveau.
Avec les Hyènes, le 30 septembre.
C'est exactement ça. Donc, Denis Barthes et Jean-Paul Roy, deux anciens de Noir Désir, qui mettent en musique, avec leur groupe qui s'appelle donc The Hyènes, une animation BD de Thierry Murat et Rascal. Donc ça s'appelle Au Vent Mauvais, c'est un BD concert. Donc on a des fois des ciné-concerts avec des groupes qui jouent sur une image et un film qui passe. Là c'est le même principe avec des illustrations de BD. Donc voilà, on voulait faire un petit peu mettre en avant ces différents sujets pour lesquels on les a pas sous la main ici puisque c'est pas dans le cadre du festival en tant que tel, mais ce sont des événements en marge. Donc voilà, ça ne se contente pas de ces deux, ça ne consiste pas uniquement en deux jours le festival et Normandie Bulle, c'est vraiment quelque chose qui se déroule sur la région pendant un mois. Voilà un petit peu l'organisation. On va, nous, continuer à essayer de trouver deux, trois invités à droite, à gauche, peut-être. Eh bien, tiens, Freddy.
Ah oui.
Est-ce que tu nous présentes notre nouvel invité?
Ah oui, on va le présenter, enfin on va le représenter, puisque c'est Steve Baker, célèbre parmi les célèbres auteurs, illustrateurs, bande dessinée.
Un habitué de ce micro maintenant.
À nouveau présent sur Normandie Bulle 2015.
Bonjour, je suis enchanté.
Bonjour Steve.
Bonjour Steve.
Steve était à notre micro, alors on n'était pas exactement au même endroit, mais il était là déjà quand on était là l'an dernier.
Tout à fait.
Et cet ingrat ne nous a pas remercié, puisque après son passage au micro, il a reçu un prix.
C'est vrai.
Tu te souviens?
Le prix du dessin.
Exactement.
Ouais. Ouais. Et c'est un peu grâce à nous.
Car.
Nous, on en a déduit ça, quoi.
Ouais, ouais.
Tu n'étais pas sans savoir que l'Entrepode, on fait et on défait les carrières. Là, voilà. Et on attendait quoi? Un petit merci?
Mais pas grand-chose, hein. Un petit merci, un petit truc, quoi.
Bah non. Et, et c'est pour ça que je repasse, parce que j'aimerais bien gratter encore un peu cette année. Voilà.
Écoute, t'as vu, là, on est juste à côté, on te recevra tout à l'heure, direct.
À tout à l'heure, donc. Hein.
Non, mais tu peux y aller.
Cette année, tu n'auras pas de prix. Hein.
Non, cette année, on avait dit fini.
Pas tous les ans, quand même.
Plus sérieusement.
S'il vous plaît.
Plus sérieusement, bah, peut-être que nous dire comment ça va,
ça va, vous?
Bah ouais,
non, ça va, chaudement, mais ça va.
Il fait chaud.
Alors, t'es encore là, qu'est-ce que tu fais cette année?
Pour attitude d'actu?
Bah, j'ai pas trop d'actualité cette année. Si, j'ai quand même sorti au mois de juillet un recueil, là, vous rappelez, de disquettes?
Bien sûr.
Oui.
Voilà, bah,
oui.
J'ai participé à un collectif. C'est ça l'actualité de l'année. La prochaine, ce sera l'année prochaine, au mois d'avril, pour Bots, qui sortira au mois d'avril. D'accord. Voilà, donc j'aurais déjà commencé le tome 2 comme ça.
Ah, pardon, tu voulais dire quelque
non,
chose
non, j'allais dire, on aurait parlé du collectif avant de parler de bots. C'était parce qu'en fait, pour rappeler un peu ce qu'était le principe du collectif.
Effectivement, sur disquette. Voilà, dont tu nous avais rapidement parlé lorsqu'on t'avait fait la, on t'avait vu à la route du livre.
Oui.
Mais là, quelques mois plus tard, quel est le retour que voilà. peut avoir ce collectif justement? Parce que quand on t'avait vu, il venait juste de sortir. Voilà, même, je crois qu'il n'était pas encore tout à fait sorti officiellement.
Non, c'était une avant-première c'est même une avant-première. Pour la route du livre.
Exactement. Donc, comment a été accueilli ce. Cet ouvrage, est-ce que tu le sais déjà ?
Eh bien, je n'en sais rien du tout. Voilà. Là, je vais vous dire que on est sûr qu'on n'en sait rien du tout. Voilà.
D'accord.
Non, je sais pas. J'en sais pas plus que ça. Je sais qu'il y a une tournée. On propose des dates assez régulièrement pour les dédicacer à droite à gauche.
D'accord.
De par la France, voilà.
Et t'y vas ou pas ?
Je n'y vais pas du tout.
Ça ne m'intéresse pas.
Voilà,
Bon, on va parler de bots alors.
Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais vous savez que je me déplace que très peu.
Ouais, voilà.
Là, je suis venu en chaussons parce que j'avais pas de côté. Je me déplace que très peu. Donc, je venais à la route du livre parce que ça se passait à Rouen. Là, je viens en festival. Je fais quand même quelques dates, évidemment, oui. à droite à gauche, mais voilà. Non, disquette, apparemment pour les précommandes, ça marchait bien. Après les ventes, j'en sais rien du tout. Je peux pas
D'accord.
vous dire.
Bon, voilà. Et donc, effectivement, maintenant, Bots, ta prochaine production, donc
ta production,
ta production, enfin que tu, t'es pas tout
je
seul.
Je le fais pas tout
faire.
Seul. Non, voilà. Il y a Aurélien Ducoudray, le superbe scénariste Aurélien Ducoudray qui m'a écrit une super chouette histoire. Voilà, un road movie avec des robots.
D'accord.
C'est comme ça qu'il me l'a vendu. Il me l'a très bien vendu. Et là, on touche à la fin. C'est le dernier cinquième de l'album qui est en train de se faire là. Et donc, on va entamer le tome 2 à partir de
dans la foulée.
Ouais.
D'accord.
Voilà.
Comment tu le sens, comme ça, le feeling?
Ouh, je le sens bien. Là. Je le sens bien. Voilà. Et en plus, ça va être un album. La bonne surprise aussi, c'est que ça va être un album pas très cher parce qu'il fait 80 pages. Il sera à 14,90. Et il y aura peut-être même une opération marketing pour qu'il soit le premier mois un peu moins cher encore.
Wow.
Voilà. Et puis en plus, vous aurez un petit bisou.
Oh,
voilà. Toujours plaisir, un petit bisou.
Oui, exactement, un petit bisou de Steve.
Ça dépend de qui
De Freddy, voilà.
Ah ouais, enfin, faut vous le dire alors.
Il ne va pas en vendre beaucoup.
Il va falloir mettre du stick à lèvres hein, parce que gercer, c'est pas pareil.
C'est ça. Si c'est en hiver, moi je gerce facilement.
Et là, le calendrier dont tu disais en fait pour Bots, donc ça se passe comment? J'ai pas écouté tout à l'heure.
Ça sort en avril, faut retenir ça.
C'est ce qu'il faut retenir. Donc, en avril.
Il y aura peut-être un peu de teaser pour Angoulême. Ils vont peut-être sortir des petites sérigraphies, des petits tirages, un truc comme ça pour. Attention, préparez-vous.
Préparez-vous, ça va arriver. Quoi.
Ça va sortir, les mecs.
Mais alors, tu teases beaucoup parce que pour te suivre sur les réseaux sociaux, là, on voit des robots, là, des bots qui partent dans tous les sens.
T'es
dans une vraie période là.
Je me suis créé une page perso il y a pas longtemps, voilà, pour qu'on puisse suivre mon travail sur Facebook. Voilà, donc je crois que c'est Steve Baker BD l'adresse, en tout genre. Steve
Baker. Je sais pas, tu nous invites, on te clique oui et puis voilà.
Oh, je sais plus, je vous invite. Ouais. Allez, jeter un coup d'œil sur Facebook. Et donc je tease régulièrement des bouts de pages, comme ça je me dis qu'au moins les gens ont un petit aperçu de ce qui se passe. Voilà.
Et tu disais que là, le tome 1 sortait en avril, sur le tome 2 ensuite.
Oui.
C'est quelque chose qui est prévu pour être en plusieurs tomes.
Oui.
C'est une longue série.
Ce serait une trilogie.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et si j'attaque déjà le tome 2, c'est pour justement rapprocher la sortie du tome 2 du tome 1 pour que ça sorte un an.
D'accord.
Même si c'est une grosse pagination, parce que du coup, 80 pages, je faut quand même.
Chaque tome.
Faut quand même serrer les fesses. Hein.
Ouais. 80 pages.
80 pages.
Ah oui, c'est un peu plus gros qu'une BD franco-belge, entre guillemets.
Normalement, c'est 48 pages, donc c'est presque le double.
D'accord. Oui. Voilà. Bon, écoute, c'est.
Tu fais l'américain, là, un peu.
Ouais. Je suis un peu américain, hein, donc.
Avec un nom comme ça.
Finalement, voilà. D'ailleurs, j'avais demandé un traducteur, il n'est pas là, donc j'essaie de parler dans la langue de Molière comme je peux.
Donc tu parles en normand, en rouennais.
Hein. Voilà, je parle en rouennais.
T'es d'Arouen, toi.
Je suis d'Arouen. Hein.
Oui, Freddy, le Ludo.
Ouais, j'ai une question. Est-ce que tu dis, vous êtes à peu près, vous êtes bien avancé dans l'album, vous êtes presque à la fin.
Oui.
Mais est-ce que l'histoire bouge pas mal en cours de route, ou là vraiment tout est écrit, tout est posé? Et il n'y a pas de surprise, entre guillemets, dans le déroulement de l'histoire.
Il n'y a pas trop de surprise dans la mesure où, en fait, on l'avait préparé pour un autre éditeur, ce projet, et on avait déjà quasiment écrit une trilogie, 3 tomes.
Ah, d'accord.
Okay. Donc,
d'accord.
C'était déjà bien avancé, on a déjà Et puis Aurélien, il est vraiment hyper précis, c'est-à-dire qu'on pour chaque bouquin, là, ça va être des chapitres.
D'accord.
C'est vraiment comme une série, une fin de chapitre avec éventuellement un suspense, tout ça, et à chaque fois il y a une nouvelle page titre avec et on reprend sur autre chose, peut-être on repart en arrière, ainsi de suite. Enfin voilà, c'est d'accord. plein de.
Au contraire de la 7ème compagnie qui, eux, avaient fait un numéro à chaque fois, voyant le succès du précédent.
Ouais. Voilà.
la comparaison est flatteuse, je sais pas, ou inappropriée, j'aurais dit aussi précisément.
En fait, on connaît pas trop ça en Angleterre, du coup, je peux pas
rien dire. Seventh Company.
Ah oui, d'accord.
Ouais, alors,
ok.
With Lefebvre. Jean Lefebvre. John Lefebvre.
John Lefebvre.
Jean
Lefebvre.
Pierre Mondaille. Oui,
peut-être un petit mot, un retour, puisqu'on t'avait accueilli l'an dernier pour Inoxydable.
Oui.
Est-ce que tu as maintenant un petit recul là-dessus? Comment a vécu le livre? Est-ce qu'il continue de vivre? Est-ce qu'il s'est bien vendu?
Est-ce qu'il a hypothéqué ta baraque? Enfin bref, tout ça qu'on veut savoir.
J'ai noté quand même qu'il y a quand même beaucoup moins de nanas autour de cette table.
Mais arrête, c'est une catastrophe.
Je suis un peu déçu, il y a une moins bonne ambiance.
Effectivement.
Voilà, moi je venais un peu pour ça.
On s'est vendu du rêve,
un peu moins nichon, on peut dire.
On peut le dire.
Oh, ça dépend, j'en ai un peu quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on parlait d'inoxydable. Le bouquin n'a pas eu une très bonne vie parce qu'il n'a pas été très bien mis en place par l'éditeur. Du coup, il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires. Évidemment, pour en vendre beaucoup, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Sinon, le retour presse sont toujours assez bons. Voilà, les gens ont l'air ravis.
Oui, finalement.
Voilà,
c'est
donc,
plutôt cool, quoi.
Non, je pense que c'est une bonne expérience pour moi, en tout cas comme carte de visite un peu. C'est-à-dire maintenant, je peux aussi faire de l'aventure. Pas un truc. Avant, j'étais un peu. J'étais pas cantonné, mais en tout cas j'étais connu
pour décloisonné un peu ton univers.
Je peux un peu faire de tout, et ça c'est plutôt pas mal parce que la bande dessinée c'est quand même un exercice auquel on peut se prêter à plein de genres différents, voilà. Donc
et justement en termes d'expérience, je me trompe peut-être, mais tes premiers ouvrages étaient perso, tu faisais tout.
Oui.
Là tu travailles donc avec un scénariste.
Oui.
Comment on change, est-ce que ça change la façon de travailler? Est-ce que, parce que d'habitude quand tu fais ton scénario, tu sais exactement comment tu veux mettre en page les cases les unes après les autres. Là tu mets en image ce que quelqu'un d'autre a imaginé, et comment on arrive à changer de façon de bosser comme ça? Est-ce que c'est quelque chose de dur ou finalement tu t'y es fait facilement?
Non, en fait je l'ai cherché un peu pour parce que je sais que pour La Vie en Slip ça m'avait un peu épuisé quand même de travailler tout seul. C'était un peu lourd à porter. Bon, je suis peut-être
genre dessiner, ça fatigue, quoi.
Bah c'est ça, je suis un peu mou du genou, du coup franchement c'est beaucoup bien plus confortable de pouvoir partager la tâche, parce que c'est vrai que le porter l'avion en slip tout seul, peut-être juste j'avais pas les épaules et du coup, mais voilà, se dire tout ce travail pour ça finalement, qu'on n'appuie pas tant du côté éditorial, voilà, c'est un peu décevant, et c'est vrai que je me suis dit bon bah essayons des collaborations, en tout cas mettons en avant ce genre de pratique, et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable parce que déjà on a le regard critique forcément du collègue qui donne son avis, on échange beaucoup plus d'idées, le travail va beaucoup plus vite en fait, tout simplement, donc c'est un élan tout autre.
Comment tu sais que... Alors, tu vas me dire, non je ne sais pas, comment tu sais qu'une collaboration va fonctionner, peut fonctionner,
comment, ou, ça peut le faire.
Comment tu vas trouver ton collaborateur
Ça c'est assez compliqué parce que c'est vrai que pendant un voire deux ans on va se retrouver avec une personne avec qui on va partager quand même pas mal de choses assez intimes, parce que là par exemple pour Bots ça parle quand même du fait que Aurélien Ducoudray devient papa.
D'accord.
Donc c'est un truc qui l'a marqué, il voulait en parler, et en l'occurrence ce sera retranscrit dans Bots. Je sais pas si je vais vous l'expliquer pourquoi, mais en tout cas il y a une histoire d'un gosse dans le bouquin.
Suspense.
Et
d'où les bébés bots que tu diffuses
voilà,
de temps
des
à
petits
autre.
Bots, ouais, voilà. Ah, des petits robots que je balade partout. Donc en fait, on va avoir une relation de couple, un peu, vraiment, parce qu'on va on va s'écharper sur des
détails. Ça devient intéressant.
Ouais. J'allais dire une connerie, mais le problème, c'est qu'il y a des
enfants, il y a des chastes.
Alors, si vous voulez, je vends la vidéo. Non, c'est vrai que ça se trouve pas par hasard un collaborateur pour faire de la bande dessinée, ou alors ça se termine mal assez vite, je pense, parce que c'est une relation qui doit être assez fusionnelle. Et là, en l'occurrence, je pense qu'avec Aurélien, ça se passe bien, parce qu'on passe surtout notre temps.
C'est pas ce qu'il nous a dit lui, mais
on a pas eu le même retour.
On l'avait il y a quelques minutes là, justement.
Il
nous disait pile et pendre.
Ah ben j'ai un discours marketing.
Il est derrière ce rideau.
C'est une idylle incroyable. Non, voilà, je pense qu'on s'entend bien avec Aurélien parce qu'on a plein d'atomes crochus de d'envie commune, voilà, on partage plein d'idées en commun, donc voilà, c'est comme ça que ça peut marcher, je pense, uniquement.
Donc il y a des chances que l'ouvrage qui en sortira sera forcément magnifique.
Ah bah, en tout cas, on s'amuse beaucoup. Voilà, donc,
Vous vous connaissiez avant de collaborer ou...
Pas du tout. En fait, j'avais publié quelques pages d'Inoxydable sur Facebook, et c'est comme ça qu'il s'est dit, tiens, ça a l'air chouette, je vais lui proposer un projet. Donc il avait un projet avec des zombies. J'ai fait des essais, ça a pas fonctionné du tout.
Ouais,
je dis non, mais t'inquiète pas, je vais refaire un peu d'essais. Donc j'ai fait des essais, non, t'inquiète, là, ça marche
non,
pas.
Non,
mais
tu sais pas, tu veux dire que là le gars il s'est dit putain, celui-là il va pas me lâcher.
Je lui file un truc.
Je lui file un truc.
de lui vendre mon truc avec les robots là, que dont je veux plus.
Donc personne ne voulait.
Ça va l'occuper.
Il m'a dit ouais, on va faire un truc, mais à ce moment-là, je vais t'écrire un truc pour toi. Oh. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
D'accord. Parce que le précédent, c'était pas un road movie avec des zombies. Non, enfin,
qui perdent des morceaux. Et
non. Mais ça fait trois pages parce qu'il y a plus de place.
D'accord. Bah, on a bien compris que tout ça, c'était un prétexte pour être invité à nouveau à Normandie Bulle.
Moi, je fais ça que pour les petits fours.
Et surtout à l'Entrepode, on sait très bien.
Bah oui. Ah bah voilà, moi c'est l'Entrepode avant tout. D'ailleurs, quand est-ce que vous me filez le t-shirt, les mecs hein?
Ah bah, écoute, faut l'acheter, il y a une boutique Spreadshirt. Ouais. Moi aussi, je fais un discours marketing. Bon, en tout cas, merci Steve d'être venu à notre micro.
Bah, ça m'a fait plaisir, merci. Mais je m'en vais pas tout de suite là.
Ah non, non, c'est pas grave. Non,
sécurité. Juste que sécurité.
Maintenant, on coupe ton micro, mais nous on va.
Non, les mecs, ah, lâchez-moi. Maintenant, tu t'en vas.
Bon, je fais de vous des gros bisous, puis on se revoit bientôt, non?
Oui, certainement.
Ça
certainement.
Oui. Ouais. Toujours un plaisir.
Qu'on aille se boire un goûter ensemble de ces jours.
Bah, avec grand plaisir. Ah, bah, dis. Un grand plaisir.
On va se boire la gueule. Bah, oui.
Il n'y a que quand on est là qu'il n'y a pas d'alcool sur la table.
C'est vrai.
Oui, mais d'habitude. Il n'y a que quand il n'y a pas les nanas qu'il n'y a pas d'alcool sur la table.
C'est vrai aussi.
Mais les nanas ne sont pas perdues pour toujours. Hein. Elles vont revenir.
Ouais, on espère.
Bah oui.
En tout cas, gros bisous à tout le monde.
À plus. Hein,
à bientôt.
Salut Steve.
Merci.
Are you ready?
Yes, I am. Prêt? Moi, je discutais avec un fan de convention, donc c'est intéressant.
Mon père, donc. Ah, tu te fous pas de ma gueule?
Vous êtes son père.
Je le regrette.
C'est pas la peine de failloter comme ça, les gens.
Condoléances.
Zou. Et donc, une rubrique maintenant avec Arnaud qui nous prépare quelque chose de nouveau, mais dans la continuité, lui aussi. Donc, Arnaud, on va te laisser la parole, mais d'abord. Maintenant que t'es là, t'as un jingle, hein?
Les auditeurs ont la parole.
Il est important le petit.
Et quel jingle!
Bravo Christophe!
Alors,
merci Christophe!
Écoutez, je me suis dit qu'au bout d'un an, il était peut-être temps de laisser la parole de temps en temps à d'autres auditeurs que JR.
Et oui, donc, ça nous fait du bien peut-être voilà, aussi.
Peut-être. Vous me direz ça.
On va voir, on va attendre la suite.
Et donc, écoutez, je vais passer le micro à quelqu'un qui est très content, je crois, d'être parmi nous.
Ah! J'espère que nous
qui
aussi.
Je vais laisser la parole. Bonjour à tous, l'équipe de l'Entlepoud. Je s'appelle Durin. Je suis très honoré de passer antenne. Je venais de Sildavi. Vous seulement connaître mon pays grâce au grand Léopold Tel Tintin. Il y a quelques mois, notre souverain, Muscal XII, destitué. Notre pays attaqué par le pays voisin, Bolduri, du méchant colonel Spons. Eux détruisent nos villes grâce à appareils ultrason mis au point sous contrainte par le professeur Tournesol. Nous plus rien, tout perdu. Quitter Sildavi avec ma femme, Anna, et ma fille, Lise, pour les réfugier en France. Nous prendre route difficile. Tous les trois, ensemble, Anna, Lise, Durin.
Oh non. Ah oui, effectivement. Je me rappelle pourquoi je voulais pas qu'il y aille.
Tous les trois traversent ces pays et arrivent aux Balkans. Beaucoup de gens là-bas. Très beaucoup réfugiés. Et comme dit chez nous, il y a du monde aux Balkans.
Catastrophe.
Je connais. Je connais un peu France autrefois. Je suis venu France quand tout jeune, avec mon groupe de rock, One Ghost, Two Losers. Pardonnez mon accent, hein. En français, groupe signifie un spectre de tocards. One Ghost, Two Losers. À l'époque, je jouais Rêve Escalier, invité par European Co Asso. Mais toi, Freddy?
Non, c'est un autre.
Freddy, dans mes bras, moi tellement touché dans mon cœur. Freddy, tu te souviens, petit poème à écoute, c'est le Dave. Moi, écrire en honneur de toi, cale-toi, grand séducteur à l'époque. Non, tu te souviens pas, je crois que ça faisait ça. Quand Freddy Lame, l'homme, croise femme qui l'allume, il lume, il l'aime, il lime.
Haïku syllabe, pas même nombre de pieds que haïku japonais et beaucoup allitération. Grâce à mon haïku hommage à Freddy, Sébastien Bailly lui apprend à apprécier haïku. Je gardais contact dans mon cœur avec France grâce à écoute LCF, Radio Chrétien de France sur Internet. J'ai beaucoup aimé l'émission musicale En avant jeunesse de Pierre-Louis Lamy. Grâce à lui, en Sildavi, chanson française très beaucoup appréciée. Groupe français le plus fameux en Sildavi est Ken Kiyou. Bon, vous appelez ça Ken Kiyou, mais en Sildavi, ça est connu sous autre nom. À cause imprimeur version Sildav du disque qui mélangeait les dernières voyelles. Ou comme grand succès immédiat, eux gardaient le nom et prononcent Ken Kouyou. Barbie contente. Ce matin, je croisais Starlet. Très ému.
Ah, bien fait de venir.
Je lui dis, mais c'est vous Starlet, je veux bien connaître votre visage. Chanteuse Starlet, presque autant connue que Castafiore en Sildavi. Visage partout affiche dans la rue. Elle fait la publicité pour le malt vodka et bière. Je pas reconnu tout de suite. Moi, Photoshop. Un peu dessous, elle n'est pas là cet après-midi. Elle volatilisée. Syndrome Fred Duval, dit le docteur. L'entrepoudre. Je beaucoup aimé votre émission. Première fois, moi, écoutez, je très fin, je voulais entrecôte. Mon cousin qui vit France depuis plus longtemps, lui me dit que tout ce que lui a trouvé est entrepoudre. Mais que ça aussi très nourrissant, car très gras et très lourd. Oh, lui, beaucoup humour, hein, me dire qu'Entrepoudre est l'adio crétin de France. Première, écoute, moi vouloir retourner pays. Pire que guerre, femme grosse voix, beaucoup bruit, dégâts, comme quand Boldul détruise nos villes. Moi pris tête dans main et mis sous table, hein, un peu saigné oreille, tympan tout abîmé. Oh, aujourd'hui sauvée, ma didouille, elle aussi volatilisée. Syndrome Fred Duval, dit le docteur. Depuis moi, continuez, écoutez quand même, car beaucoup nostalgie, écoutez Entrepoudre. Il y a autre homme comme moi, sans pays, apatride, Marius, le giton, ça est comme fils Mister Loulou, lui partagé avec équipe, comme petite prostituée dans les rues de Clove, capitale Sildavi. Beaucoup mélancolie aussi, écoutez Entrepôtre, car homme très triste. Lui aussi venir peut-être pays de l'Est, Christophe. Ma femme dit, lui sûrement connaître beaucoup guerre pour dégager autant de tristesse. Première fois aujourd'hui, rencontrer Monsieur Nico.
Oh,
lui très gentil. Lui nourrit le mois contre le fait l'installation blanchement compliquée avant émission et un peu de travaux montage après émission. Oh, lui promet moi très facile, mais je commence à craindre très pénible. Je content être ici. Moi, point commun, invité d'honneur au festival. Quand j'en demandais moi comment je m'en sortir, moi toujours répondre Bajram. Mais moi, pas tout seul ramé. Moi, voir Entrepoudre aussi phéromone. Non, pas phéromone comme fourmi ou parfum sexuel, c'est Luxion Freddy. Non, phéromone, demandez à Jean. Hein, Tipeee. J'ai vu Facebook Entrepoudre toujours parler Tipeee, tout le temps. Tipeee partout, très sale. Monsieur Nico, très bonne idée. Lui pour mettre auditeur Front National. Que si eux donnaient Tipeee, Entrepôtre le verser à Jean pour moi retourner pays dans avion Sildel, compagnie nationale. Lui dit, rassure-toi, ça a explosé donc, mais toi restez quand même. Car lui promet en même temps auditeur front de gauche, Tipeee servile pour l'installation définitive, famille de moi en France. En vrai, lui, il galdait tout à Jean pour Entrepôtre. Mais moi, rassuré, mais dans le Netal, lui promet moi le logement social sans moi payer. Monsieur le self, le maire, lui dit très touché par mon blâme, mon drame. Bonté humaine, générosité, ça est qualité Jean Dalnétal. Moi très heureux rester ici, car Dalnétal beaucoup touché moi, car beaucoup ressemblait Sildavi. Après attaque Armée Bolduri. Ainsi je pourrais revenir tous les ans, revenir dans le mandibule, qui toujours fait le penser moi, groupe de mes amis décédés pendant guerre. En venant ici et pensant à eux, moi aussi, je honorais toute ma bande décimée.
Bravo.
Bravo Arnaud, bravo.
Bravo. Eh ben écoute, ce nouveau retour d'auditeur nous va droit au cœur. Franchement, c'est émouvant, c'était touchant.
Ouais, ça me rend triste, moi.
Donc eh ben, notre table a encore une tête connue. Hein,
mais c'est qui
je ne connais pas, celui-là.
Oh, connu, voilà.
Mathieu, enfin, à notre micro en tout cas. Mathieu, donc, qu'on avait déjà reçu l'année dernière pour.
Bonjour tout le monde.
Voilà.
Hello.
Et sa participation en tant que libraire.
Voilà. Et puis célèbre aussi pour son interview fantôme.
Exactement, de la route du livre qui s'était perdue dans les méandres de l'enregistreur. Voilà,
ouais.
Non, t'avais été mauvais. Hein,
oui, on a coupé au montage.
J'ai obligé de le couper au montage.
Je me comprends.
Donc voilà, nous nous rattrapons en t'invitant notre micro. Oh merde, ça a planté. C'est dommage.
Eh ben écoute, reviens une prochaine fois.
Eh ben l'entrepôt toujours au point.
Donc bah Mathieu, tu vas nous dire un petit peu peut-être ce que tu fais là, toi, comment ça se passe.
Comment je fais des interviews à l'entrepôt après ça.
Tu te balades dans les allées.
Ouais.
Non, t'as un stand.
Voilà, un stand de librairie. On a monté avec Pierre Julien de Funambule une deuxième librairie. Voilà, on a fait un gros stand en commun. Et je propose les dernières nouveautés, mes coups de cœur de l'année. Voilà.
D'accord, il y a un choix éditorial qui a été fait spécialement pour le festival ou c'est vraiment.
Mes coups de cœur.
Les coups de cœur, d'accord.
Est-ce que j'avais en stock au magasin.
Accessoirement.
Tous les invendus.
On n'a pas dit, on n'a pas précisé, mais notre invité est gérant d'une boutique spécialisée qui s'appelle Lumière d'août.
C'est ça.
C'est vrai qu'on ne l'a pas reprécisé.
Spécialisé dans les vérandas d'ailleurs.
C'est pour ça qu'il y a une grande vitrine qui fait 7 mètres. Voilà.
Donc bah, cette année, donc tu fais honneur à l'invité d'honneur justement, Denis Bajram, qui vient pour Universal War 2. Il me semble que tu nous en as, enfin pas que pour ça d'ailleurs. Il vient pour l'ensemble de son œuvre.
Ouais.
Toi, t'as eu la chance de le rencontrer déjà,
plusieurs fois. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un que je connais. Bon, je vais pas dire un ami, mais quelqu'un que je connais bien, que j'ai fréquenté. J'ai même un peu travaillé pour ses BD avec Casterman pour le tome 1. J'avais fait du street marketing à Angoulême.
D'accord.
Voilà, c'est un mec hyper talentueux, c'est un maître de la BD d'aujourd'hui, spécialisé SF.
Ouais.
J'ai pas pu assister à sa conférence qu'il a donnée à l'hôtel de région, mais a priori c'était
du lourd. C'était la semaine dernière, vendredi.
Ouais. Par contre, faut aller voir l'expo. Son expo à l'hôtel de région, c'est jusqu'au 20 octobre.
Arnaud y est allé, ouais, il nous en a parlé.
Figure-toi qu'on en a parlé.
Tu vois,
elle est énorme.
Ce que je disais en plus. Pas forcément grand monde en dehors des. Enfin, à certains horaires, c'est totalement vide, donc tu as tout à fait le temps d'apprécier le dessin.
Ah ouais. 160 planches, deux salles. Ah non, c'est beau à voir.
Et puisqu'on parle d'exposition, on a eu tout à l'heure Julien à notre micro. Donc, toi, dans ta librairie Lumière d'août, tu as des planches ancrées par Julien Hugonarbert qui sont sur ton. Enfin, qui sont en. En observation,
qui a été exposé, ça s'est terminé.
Ah, tu les en
hier.
Es, pardon. C'est un peu ballot.
Mais je les ai en permanence.
T'es
enfin,
au top, toi.
Bah, j'y suis allé hier, elles y étaient encore, donc c'est bon.
ça va très vite. Hein,
et d'ailleurs, il a même plus de livres à vendre.
Il nous disait qu'une justice était un tel succès que c'était en rupture.
Ouais. Une justice, l'année 2, tome 1, est en rupture. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et voilà. Et le tome 2 arrive dans 15 jours.
D'accord.
Non, c'est un super boulot. Enfin.
Ça a cartonné, t'as vendu tous les donc, exemplaires comme ça
avant que Julien vienne en dédicace, donc ça m'a posé un peu de problème.
Ah, quand il est venu en dédicace, t'avais même plus rien à vendre.
Non, il m'en restait un.
Ah oui, ça
casse un peu l'opération. Enfin, quoi, non, l'intérêt c'est de venir voir l'auteur aussi.
Oui, donc voilà. Non, c'est. Ouais, une justice. Ouais, gros carton. C'est pour ceux qui connaissent Civil War chez Marvel, bah, c'est l'équivalent chez DC.
D'accord.
Tous les héros se fight de chez DC. Donc, et le pitch de départ, il est pas mal. Pourquoi Superman devient un gros psychopathe dictateur pas interplanétaire, on n'en est pas encore là, mais ça va pas tarder, mondial quoi, et c'est
ça marche bien.
Ouais, d'accord.
Ah ouais.
En tout cas, ça donne envie de le lire, mais on sait pas quand est-ce qu'on pourra le lire, hein, du coup.
Ah bah, l'année 1 est dispo.
L'année 1 est dispo. Ça peut être intéressant. Avec Ludo, tu... Pardon.
Oui, bah du coup, non, mais j'allais rebondir là-dessus pour savoir un petit peu la sélection du libraire. Mais je voulais qu'on finisse à la limite sur une justice, d'abord.
Non,
mais... Je voulais finir sur une justice, d'abord, et puis après, je voulais savoir un petit peu quels étaient tes derniers coups de cœur en matière de BD.
Oula.
Voilà, mais...
L'année dernière, tu nous avais parlé de Lock and Key, qui était aussi notre coup de cœur, donc voir si on est toujours sur la même longueur d'onde.
Bah, toujours les Kunky, hein, moi, c'est mon comics préféré, donc voilà. En comics, il y a une justice, donc ce qui se défend très bien. Il y a chez Glénat Comics, il y a Lazarus, que je conseille fortement, j'en ai parlé hier, Nicolas. C'est, ça vient du comics indépendant américain. Et c'est l'histoire. Alors, l'argent est devenu maître du monde.
Bon. Finalement, c'est pas rien de nouveau.
Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que ça a permis à certaines familles les plus riches d'acheter des territoires en Nord-Amérique. Et du coup, elles ont carrément des hectares énormes, voire des états entiers, qui appartiennent à une seule famille. et la famille ne protège que les siens, et le reste de la population, bah, c'est de la poussière. Voilà. Et on va suivre particulièrement une famille qui a San Francisco, Los Angeles et tout ce coin-là. Et donc le père a 3 enfants naturels, 2 fils, 1 fille, et la 4e qui est une fille, et il l'a génétiquement modifiée. Et elle va devenir le bras armé de cette famille, tout en, voilà, en protégeant les intérêts de la famille physiquement. Et on va suivre cette famille-là à travers les autres familles, le commerce, la guerre de pouvoir, le chantage, les kidnappings. Et dans le tome 2 qui vient juste d'arriver, le tome 3 arrive au mois de novembre, on s'intéresse aussi à des gens, des petits gens, là, les 99% de la population qui servent strictement à rien, qui essayent de s'en sortir justement. C'est un super comics.
Voilà. Ça s'appelle
Lazarus.
C'est bien vendu, je trouve.
Oui, ouais. Vous aussi.
Ah, c'est du top de chez top.
Ah, il a failli me le faire acheter hier. Donc,
Tu te laisses pas rouler quand même, Nico.
Je vais me faire avoir.
Voilà, et puis en franco-belge, c'est plus dur à faire une sélection parce qu'on est sur une phase là de très bonne qualité. Donc voilà, il y en a plein, il y en a trop. Enfin, il y en a trop de bien.
Voilà. Arnaud m'a fait découvrir. L'île aux femmes et puis
la favorite,
c'est fantastique. Alors,
voilà, c'est sorti il y a un peu plus longtemps, donc voilà. Mais l'île aux femmes, c'est moi, c'est mon préféré de la sélection.
Super. C'est Pierre Julien qui me l'a conseillé.
Ouais. On a aimé hein, dans le réseau Canal BD, on a aimé Fred Sandon du Grenouillepart aussi. Ouais, c'est très fin, c'est bien vu, c'est drôle. Et puis les dernières pages, c'est enfin la chute, elle est juste énorme. Ouais, ouais. Elle est énorme. Il fallait avoir l'idée, il a trouvé ça, ouais, c'est génial. Il y a eu aussi cet été qui est... Alors Pierre-Julien l'a sur son stand, c'est Zai, 4 fois.
Oui, c'est
de Fab Caro.
C'est d'Enrico Macias.
Un truc. Ouais, c'est ça.
Zai, c'est pas plutôt
Jonathan. Et c'est. Si on aime l'humour un peu déjanté.
Ah oui, c'est spécial. Hein.
À côté et tout ça,
c'est l'histoire d'un mec, si je me souviens bien, qui arrive à une caisse. Bah d'un supermarché et qui vient pour payer, il n'a pas sa carte, sa pièce.
Voilà, la caissière lui demande est-ce que vous avez votre carte de fidélité, et là non. Il touche ses poches, il fait ah merde, je l'ai oublié dans mon autre pantalon. Sécurité.
Et là le mec,
il y a un problème, Nadine. Bah oui, monsieur n'a pas sa carte de fidélité. Monsieur, vous allez me suivre s'il vous plaît. Monsieur, lâchez ce poireau, sinon je vais être obligé de faire une roulade arrière. Et à partir de là, Fab Caro se sent obligé de fuir le magasin. Il va devenir l'ennemi public numéro 1 de la France, avec les auteurs qui vont s'y mettre, les médias, pourquoi un auteur BD tombe dans la violence. Voilà.
C'est complètement absurde, mais...
Et on ne le sait pas assez, mais c'est tiré d'une histoire vraie.
Vu certains dialogues, non, j'espère pas.
Mais c'est vrai, Zai, ouais, c'est...
C'est la tranche de rire du moment, ouais. Quoi. C'est...
Un petit truc sympa, ouais. Je sais pas s'il l'a ici, Pierre-Julien.
Oui, il l'a.
Il l'a
ouais. Moi, j'en avais plus, j'ai tout vendu.
Ah, pardon, je croyais qu'il disait il l'avait en librairie, mais...
Non, il l'a là.
D'accord, bah écoute, j'ai...
Il l'a.
Waouh. Oui, ouais, Ludo.
Petite question avant qu'on te libère. Comme ça, hein, tu vois, c'est ma dernière question. Non, est-ce que... Vous parlez presque un peu plus sérieusement.
On était très sérieux, là. Je sais pas pourquoi tu dis ça.
Non, mais là, je vais l'être encore un peu plus.
Oh, merde.
On entend dire que le festival pourrait...
Fermer bientôt.
Ne pas perdurer. Alors,
ça, c'est le problème de la culture en ce moment.
Ah, c'est vrai.
Hein, on en parle depuis le début de l'année. Cet été, y a eu le problème du Festival d'Avignon. De théâtre, et la culture aujourd'hui est menacée parce qu'il n'y a plus de subventions venant de l'État. Donc en bas, ceux qui font, quand on est obligé de réduire les budgets, 2 solutions, soit on ferme parce qu'on peut plus, ou soit on réduit la voilure, et du coup...
C'est la culture qui trinque dans toutes les collectivités, c'est comme ça.
Ouais, voilà. Donc, malheureusement.
Le FN n'est même pas encore passé. Hein. Ouais.
On a dit pas de politique, mais quand même, merde.
Non, ça serait dommage.
C'est vrai que quand on lit le programme, je ne sais plus si c'est sur le programme ou sur le communiqué de presse, mais monsieur Lelièvre, qui est le président, a quand même un discours et un mot qui n'est pas hyper optimiste, en fait, en disant qu'on serre un peu les fesses, parce que même assez tendu, quoi. Donc,
il l'avait écrit comme ça, ouais.
Je crois que ces mots-là, c'est sûr que c'est lui, mais le reste, je ne sais plus.
Donc, il faut vraiment croiser les
doigts. Mais on espère, peut-être pas que nous, on soit là l'année prochaine, mais qu'en tout cas, le festival, oui.
Ouais, il ne faut pas que ce soit le 20e et le dernier.
Voilà.
Après, est-ce qu'il faut le faire sur une autre forme, peut-être, s'il n'y a plus les budgets. Voilà, il faut peut-être s'adapter, mais On ne peut pas refaire dans ce cours de tennis le même festival si c'est pour réduire de moitié. Enfin, ouais, ça va être vite, ça va être.
Effectivement, oui, voilà. Parce qu'on voit quand même que même si c'est un peu dur, il y a quand même une fréquentation qui n'est pas négligeable. Quand on voit la queue devant les auteurs, quand on voit les gens qui se baladent autour de nous, vous entendez peut-être le bruit là. C'est
un des plus grands rassemblements régionaux. Je ne sais plus, ils avaient fait. Alors l'année dernière, j'ai pas eu les chiffres, mais.
Il y a deux ans, il y avait plus de 5000 personnes.
Oui, c'est ça, ils étaient près de 6000. Ouais. Donc voilà, c'est pas négligeable.
C'est quelque chose qui compte, ouais.
C'est pas négligeable. Donc non, on va rester optimiste.
Voilà.
Nous, libraires, on fera en sorte qu'il existe. Après, voilà. On a des auteurs locaux, on a des auteurs qui sont vraiment pas loin dans les régions côté. Sans faire venir l'hôte qui vient d'Amérique du Sud, on peut faire un truc assez sympa, je pense.
Oui. On le voit, voilà. Il y a quand même beaucoup d'auteurs. Tout à l'heure, tu évoquais avec Ludo des gens que toi tu connais et que nous on connaît pas. On voit que rien que ça, le vivier de gens qu'on ne connaît pas forcément est assez intéressant. Donc il n'y a pas besoin d'aller très loin toujours.
Enfin, Denis Bajram, si j'arrive à vous le choper, il vous le dira. Il y a 400 auteurs BD, donc ça nous laisse un choix.
Oui,
il n'y a qu'en France. Donc,
voilà. Effectivement, ça, mettre en relation ces auteurs-là avec leur public dans ce genre de festival, on espère que ça pourra continuer.
Il y a le festival du week-end, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à côté, il y a tout un programme d'expositions, choses. Voilà, et ça aussi, ça fait partie du festival. Et oui, c'est un budget. Il faut que ça accompagne le festival. Là, je pense qu'il y a un petit truc en communication à appuyer. Que ce soit l'expo Bajram, l'expo à la maison de l'architecture sur les comics américains, c'est assez intéressant de voir l'évolution de la Batcave à travers les âges, où on passe d'une petite bulle où il rentre à peine sa Batmobile il y a 12 bagnoles, 3 avions, un Exactement. Dinosaure, une caisse géante.
Enfin, ça a toujours été un branleur, Batman.
Ah ouais.
T'as raison. Non, mais effectivement, c'est tous ces événements-là, c'est pour ça qu'on a tenu à les rappeler un petit peu en préambule de l'enregistrement, c'est de dire que le festival, enfin Normandie Bulle, l'événement Normandie Bulle ne se contente pas de 2 jours ici. C'est tout un ensemble d'événements. Qui mérite certainement d'être vu, hein, puisqu'Arnaud nous en a déjà cité un ou deux, mais il y en a certainement d'autres. Et peut-être qu'un peu mettre un peu plus le doigt dessus sur les années suivantes, parce que c'est pas toujours très clair pour les gens, pour le grand public en tout cas, je pense.
Ah bah moi, parmi mes clients, pourtant qui sont du coin et qui aiment la BD et qui s'y intéressent et qui viennent et tout ça, ils savaient pas que l'hôtel de région recevait des expositions. Enfin.
Ouais.
Voilà. Donc après, il y a des partenaires aussi. Enfin voilà, la piste première, si on veut rester sur du qualitatif au niveau du festival, c'est retrouver des partenaires. Après, comment ça va marcher,
Oh non, pas lui.
Bon, Steve, maintenant tu te barres, on t'a déjà eu. Hein.
J'avais dit que je reviendrais.
Attends, tu te casses. Tu vois, ce qui est chiant avec Baker, c'est qu'après, il arrête pas de s'incruster, quoi. Ouais. Ça, c'est la mort.
C'est comme
ça chez vous aussi.
Ah, c'est casse-couille. Hein.
Bah, en tout cas, sur ce, on va te remercier, Mathieu, d'être venu nous laisser échanger avec toi quelques instants. Et puis, nous, ça va. Le courage, nous, ça va. Hein, c'est pas très compliqué. Et bon courage à toi, parce que toi, t'as encore la journée de demain encore.
Ah
et
ouais.
Et puis, merde. Donc, bonne journée, bon courage, et puis on espère que tu passeras un bon festival. Hein.
Maintenant, faut que tu partes.
Hein. Ouais, faut que tu dégages.
Allez, salut Mathieu.
Ciao.
Ça va te passer,
merci,
Mathieu.
Merci, salut.
Ludowski, Paul Ludowski, auteur polonais, donc qui va donc nous parler de sa série Moi et Mishka, donc
notre en 18 volumes.
Ah, par contre, on a oublié le traducteur, alors, ça c'est merdant.
Ah, bon, je peux parler, c'est le DAF couramment.
Il y a le Sildav qui traduit le
polonais. Doline.
Non, par contre, il va falloir que j'y arrive vraiment, je suis membre du jury.
Jury. Pour tu votes pour moi alors.
Ah, tu bosses vraiment alors.
Ouais, là, pour une fois, je bosse.
Oh merde.
Voilà.
Bon, bah écoute, on va pas.
Par contre, c'est mal payé. Ah non, c'est.
Oh là là. Attends, tu fais bien de. Nous ouvrons ce micro, cette tribune, pour que tu puisses un peu revendiquer.
J'aimerais bien avoir un tarif à l'heure quand même.
À la minute même.
Vraiment, qu'ils se sentent bien avec nous. Quand même.
Bon, sinon, t'as pensé à ma dédicace bien, parce que...
Elle est en cours.
Elle est en cours. Tu
sous-traites.
C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait.
Va être super.
Il y a Piotr qui est en train de faire.
Il avance pas vite, mais il est pas cher. Bon, je vous fais encore une fois des gros bisous.
Salut Steve.
Ciao.
Freddy, tu fais ta chronique ?
Si vous voulez, ouais, je suis prêt.
Putain, je crois que tu as même un nouveau jingle.
Attends,
toi aussi.
Attends, bien sûr.
Alors. Attention, c'est parti.
Non mais comment ? Mais vous ne me reconnaissez pas ? Nous sommes tous ici sous le choc de l'émotion. Après ça, croyez-moi, on se sent mieux.
Il est...
Je l'aime bien, mon jingle.
Moi, je l'aime bien, le jingle.
Entre les... Et puis, quoi et moi, on se sent mieux.
Christophe, il faut que tu
extrait, extrait, vous l'aurez reconnu, de Dupont La Joie, film. Merci, Christophe, pour ce super jingle.
Eh ben donc toi Freddy, de quoi vas-tu nous parler après ce... Parce qu'avec un jiggle comme ça, t'as intérêt à avoir quelque chose d'intéressant. Regarde,
ouais,
parce qu'après on va se sentir mieux. Hein.
Alors sortez vos boussoles, les amis. Je vous emmène pour un voyage musical. J'essaie de parler un peu comme Christophe. J'aimerais bien parler comme lui. J'espère que je vais y arriver.
Ça, ouais, ben je te conseille pas.
Musicale.
Alors je vous emmène pour un voyage musical. La direction à prendre, c'est très simple. Mettez le cap au nord. En chemin, vous tomberez forcément sur un garçon, un Rouennais qui tripote la guitare et les machines. Là, peut-être, on va l'entendre, le morceau « Temps mort ». Alors, c'est lui, c'est le Nord. Nord, c'est Xavier Feugret, connu dans nos contrées sous le nom de Dame Fortune autrefois, quand il jouait en bande, Xav Feugret, quand il jouait en solo déjà. À l'époque, le talent coulait de ses doigts et l'émotion de ses mots. C'est beau. De ce côté-là, rien n'a changé. Mais il a fallu du temps. Pas forcément du temps mort, non, mais le temps de se remettre à l'endroit, le temps de faire les bonnes rencontres, le temps de peaufiner tout ça, en somme. Il était temps d'exploiter ce talent à l'état brut, aujourd'hui canalisé dans le circuit de la chanson. Le 11 septembre dernier, Nord sortait son premier EP, peut-être vous l'avez vous écouté, sur lequel figure Drunk, par exemple, un titre que vous avez pu entendre sur France Inter, puisqu'il était en playlist tout l'été. Encore ces dernières semaines, j'ai pu l'entendre. Un EP sur lequel figure également Temps mort. C'est le morceau qui passe derrière moi, que l'on peut écouter donc en ce moment même. Le 11 septembre, Nord jouait aussi à Rouen sur une péniche au milieu de ses amis. Un show en solo, généreux et simple, à l'image du bonhomme. Depuis, Nord trace son chemin, telle une étoile filante, l'étoile de Nord.
Oh, c'est beau. C'est très très joli.
Et très beau.
C'était christophien un peu, non ?
Un petit peu. En manchant. Ouais.
Ça manquait un peu de...
De tristesse, peut-être.
Ouais. De mélancolie dans la voix.
On sent trop la joie dans ta voix. Ouais.
Trop de cheveux. Ouais. Une petite envie de se foutre en l'air, mais pas plus que ça. Ouais.
Tu n'avais pas les larmes encore.
Alors, ça, je vais travailler la larme.
Juste, tu nous en parles parce que c'est un de tes coups de cœur, mais je sais qu'Arnaud également...
Alors, c'est intéressant, parce qu'on peut échanger du coup avec Arnaud, qui était là le 11 septembre pour le concert du Nord sur la péniche La Lutèce à Rouen.
Sur la péniche, et vraiment avec d'abord un garçon qui dégage quelque chose de très simple, très vraiment, enfin humainement, très voilà, qui dégage quelque chose, une forme de charisme, je trouve. Et donc, il y a une présence, une présence très forte, une voix magnifique. Il était seul, et il nous a fait vraiment un concert où, comme je disais, il y a eu une première partie très sympa, mais quand on est passé à Nord, on sent que tout de suite, là, on est passé sur un autre niveau. Et c'est vraiment de la chanson française qui, moi, me touche. Et je l'ai découvert au moment de Drunk grâce à Freddy, qui en avait parlé sur son Facebook. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est à suivre, effectivement, parce que je pense un vrai talent pour la chanson française.
Bah, on mettra aussi le clip qui a été tourné dans une chapelle à Rouen, c'est ça ?
Alors, plus que dans une chapelle, c'est l'abbatiale Saint-Ouen.
D'accord.
Qui est l'un des plus grands édifices religieux de la ville. Et tu as raison de dire qu'on l'a vu en solo, parce que habituellement, il tourne en trio, avec quelqu'un qui est aux machines, à la basse, et quelqu'un au clavier. Et vraiment, c'est à découvrir. Et on parlait tout à l'heure de The Yen, en concert le 30 septembre à l'espace culturel François Mitterrand de Canteleu. Et bien Nord sera en première partie de ce concert, et vraiment c'est une bonne occasion de le voir dans une salle très accessible, proche des artistes, c'est vraiment l'occasion d'y aller, quoi, de le voir, de le découvrir.
D'accord, donc en plus ça fait le lien avec le festival et les événements. Donc
absolument, puisque ce concert est dans le cadre du festival Normandie Bulle.
D'accord, très bien. Donc toi Arnaud, malheureusement tu nous as fait comprendre que tu ne pourrais pas y être, mais le 30 septembre nous allons relayer cette information. Et puis s'il y en a parmi vous qui avaient pu participer à ce concert, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le blog. Je pense que Freddy et Arnaud seront ravis d'échanger avec vous. Moi c'est moins ma tasse de thé, donc c'est pour ça que je ne m'inscris pas dans ce projet, mais effectivement c'est quelqu'un qui visiblement gagne à être connu et qui a un succès, je dirais, en pente ascendante très forte, quoi. Donc
on est sur la bonne voie.
On lui souhaite que de bonnes choses. Voilà. cool. Merci Freddy pour ce sujet. Et puis bah, je crois que Mathieu nous a apporté un nouvel invité, donc on va le remercier. Merci Mathieu.
Bonjour.
Alors Ludo, on te laisse nous présenter notre nouvel intervenant au micro.
Tout à fait, c'est reparti pour un tour avec Malo Kafriden, qui est dessinateur, qui a dessiné notamment la série KGB avec Valérie Mangin pour le scénario. Également dessinateur de la série Otaku Blue, qui est publiée chez Dargaud, mais qui a également travaillé une série ou un album qui s'appelait La Rage.
La Rage, c'était en deux tomes, oui. C'était avec le scénariste avec lequel je travaille encore actuellement là, sur la banque, qui s'appelle Pierre Boisserie.
Voilà, Pierre Boisserie. Et Pierre Boisserie, d'ailleurs, la banque, Pierre Boisserie, c'est aussi un collectif de dessinateurs, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que chaque dessinateur dessine deux tomes, ce qui permet de sortir deux albums par an. C'est une grande saga familiale à travers les siècles. Donc, en fait, chaque dessinateur dessine une génération de banquiers.
D'accord. Et donc, c'est le quatrième tome qui sort.
Qui sort dans 15-20 jours.
Qui sort dans 15-20 jours. D'accord. Donc, c'est l'actu brûlante.
On est en plein dans la fenêtre, alors.
Donc Malo, en fait, on a un petit peu envie de faire ta connaissance. Tu habites sur Paris.
Déjà, on comprend qu'il est alsacien avec son nom.
Voilà. Produit choucroute, c'est moi.
C'est pas mal, écoute. Alors, en quelques mots, ton parcours, en fait, comment tu en es arrivé là?
Alors,
À Darnétal.
Comment on mandibule, comment on tombe à Darnétal?
Comment on vient de l'Alsace, Paris?
J'ai pris la 28.
Dis-nous tout.
Eh bien, j'ai commencé à ne pas travailler à l'école, ce qui m'a conduit directement dans le monde de la bande dessinée.
Ah oui,
Et ensuite, en fait, j'ai fait du fanzina à Rennes, en Bretagne, en Alsace, pardon. Et donc, dans ce fanzine dans lequel je travaillais, il y avait David Chauvel, Jérôme Le Reculet, Erwan Le Sec, enfin de nombreux dessinateurs qui sont des professionnels. Et donc, après ça, j'ai fait les Beaux-Arts à Angoulême, donc l'atelier BD. Une bonne partie de mon cursus scolaire s'est déroulée dans l'atelier de Denis Bajram.
D'accord. Ah oui, d'accord. Ce qui explique le lien avec Valérie Mangin, son épouse.
Voilà.
D'accord.
Et donc, j'ai passé plus de temps chez Denis qu'à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême.
En même temps, ça a dû être très formateur, j'imagine.
Oui, tout à fait. J'en ai appris plus là qu'aux Beaux-Arts. Et en sortant des Beaux-Arts, ou de chez Denis, je suis retourné à Rennes et là j'ai travaillé donc avec David, qui était déjà professionnel depuis un bon moment, lui. On a sorti une première série qui s'appelait Quarterback chez Delcourt.
Est-ce que ça a un lien ou rien à voir avec la série, en tout cas l'album avorté de Denis Bajram qui s'appelait Quarterback?
C'est celui-là.
C'est celui-là, d'accord. Voilà,
c'est-à-dire que c'est Denis qui m'a mis en rapport avec David, enfin c'est toute une histoire. Donc c'est grâce à Denis que j'ai fait cette série-là avec David, même si je connaissais déjà David. Et ensuite, effectivement, je me suis retrouvé à travailler avec Valérie. Parce que du coup j'ai déménagé, eux habitaient à Bruxelles à l'époque, donc j'ai déménagé à Bruxelles.
Et tu les as vraiment suivis
On s'est suivis. Tout à fait.
Et alors, parce que je veux dire, les sujets que tu as pris après, parce que évidemment, je vois le premier KGB, c'est une série qui est en plusieurs volumes.
Je change régulièrement d'univers, oui. D'accord. Donc, c'est ce qui me permet d'être totalement indéfinissable pour les éditeurs ou pour les scénaristes. Oui, je suis un peu difficile à classer. Donc, j'ai fait du polar deux fois avec Quarterback. C'était un polar dans le milieu du football américain. Un polar avec Otaku Blue qui se passe au Japon. Et avec KGB, c'était du fantastique soviétique. Et puis là, en ce moment, c'est avec la banque, c'est plutôt de l'historique, puisque je travaille. Enfin, la période dont je me suis chargé, ça couvre 1850 jusqu'à la Commune de Paris.
D'accord. D'accord, oui.
être indéfinissable, c'est un avantage ou un inconvénient?
C'est un inconvénient.
Oui. C'est vrai. Ah,
les d'accord. gens aiment bien les catégories, justement.
Oui, c'est plus pratique. Ah, tiens, j'ai une série avec des cheminots et des lapins. Bah, on va faire appel à machin qui est spécialisé dans les trains et les, voilà, et les lapins.
Alors que toi, ouais, on ne pense pas forcément toujours.
Voilà. Ouais. Mais moi, j'aime bien changer régulièrement.
Misère.
Voilà. Et puis, il y a un challenge aussi un petit peu de.
Oui. Oui, certainement. Ouais,
Oui. Au niveau des univers que tu aimes explorer, tu disais que j'étais indéfinissable, tu touches un peu à tout. Tu as quand même des thèmes de prédilection?
Pas tellement. Bon, les BD avec les avions, c'est pas trop mon truc. Mais, mais okay, sinon,
donc on enlève les avions.
Voilà, il y a des trucs que je refuse de dessiner.
Donc le reboot de Bug Dany, c'est mort.
Voilà, le reboot de Bug Dany, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Mais non, sinon, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, en fait. Et je me suis retrouvé des fois à dessiner des choses auxquelles... Enfin, par exemple, Trafic, qui était chez Grand Angle, chez Bandou, là. C'était une série qui se passait dans le milieu ferroviaire, et c'est vrai que a priori, je m'étais pas dit, tiens, j'ai super envie de dessiner des trains, mais c'était assez intéressant, j'ai appris plein de choses. Des fois, il y a des choses sur lesquelles on se projette pas qui nous enrichissent.
Qui enrichissent carrément, ouais. D'accord. Et donc là, la banque Tomcat, ça sort donc, on nous dit, mi-octobre.
Voilà.
Est-ce que tu as d'autres projets
à la suite, oui,
qui vont arriver derrière?
Il y a peut-être, oui, enfin, j'ai d'autres projets, mais pour l'instant, rien de vraiment définitif et de concret. Donc,
bon. Ah. Je crois qu'on va arrêter là, Malo, parce qu'il y a la remise des prix qui se passe juste derrière nous.
Et on va plus pouvoir enregistrer. En tout cas,
merci beaucoup.
Merci d'être venu nous.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Partager quelques instants avec nous et puis bonne fin de festival à toi alors.
Merci.
Merci Malo.
À bientôt.
À bientôt.
Au
revoir.
Donc on continue notre épisode un petit peu décousu, hein. Nous-mêmes, on sait pas trop où on en est,
c'est
en fait,
un
finalement.
Gros bordel.
D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe si vous avez réussi à placer vos mots mystères. Vous voyez, je suis même pas concentré sur cette histoire. Donc, oui, nous revoilà dans cet antre de Normandie Bulle. Nous sommes un peu perdus dans notre fil conducteur, mais c'est pas grave.
Cet entrepode.
Là, on va enregistrer, oui. On va enregistrer nos coups de cœur et nos coups de gueule. Donc, en 60 secondes chrono. Et donc, je crois qu'il y a un jingle.
C'est quoi, c'est plus un coup de cœur, c'est quoi? Tu veux appeler ça autrement, non?
Non, c'est... par qui on commence? Tiens, Mr. Ludo, puisque tu m'as l'air en pleine forme. D'accord. Attention, Ludo, c'est parti.
Voilà, à tout seigneur, tout honneur, on est dans un festival BD, donc mon coup de cœur va être une...
C'est la fête à la conjugaison.
BD. Je veux parler de L'île aux femmes de Zanzim que m'a conseillé Arnaud. L'île aux femmes de Zanzim qui est parue aux éditions Glénat, qui est vraiment une BD fantastique. L'histoire d'un homme, un homme à femme qui s'appelle Céleste, aviateur pendant la Première Guerre mondiale et qui est chargé de transporter les lettres des poilus et qui va être touché en vol et qui va amerrir, on va dire, sur une île déserte, a priori. Et on va suivre les pérégrinations de ce Robinson. Et ses mésaventures avec une tribu d'Amazon qu'il va rencontrer sur place. C'est super drôle, c'est très enlevé, c'est une véritable ode aux femmes et qui est particulièrement touchante sur les dernières pages. Vraiment, je vous le conseille vivement. Un dessin ligne claire qui met vraiment en valeur les courbes féminines. Il y a notamment une page 40 que je recommande, que je trouve vraiment très très belle à tout le monde.
Voilà. Donc Christophe, c'est ouvre le livre.
Courez-y, c'est vraiment une très très belle bande dessinée et vraiment avec beaucoup de fond derrière. Voilà,
parfait, mon Ludo.
Pile dans les temps. Près, incroyable.
C'était beau, c'était préparé.
Quel talent.
Alors que juste à côté de nous, nous avons Fred Duval et Denis Bajram, là, qui sont en train d'animer un stand pour les enfants. Donc, ils leur font une initiation à la bande dessinée. Donc, on espère les avoir à notre micro peut-être plus tard. C'est pas sûr, mais Fred Duval. S'ils avaient 5 minutes, Fred Duval te son. Bon,
Fred Duval, la prochaine fois, tu lui diras qu'on fait un podcast pour enfants. Peut-être qu'il viendra.
On aura peut-être le loisir de le charrier tout à l'heure. On verra bien. Voilà. Donc, tiens, Arnaud. Puisque tu parlais, de quoi tu nous parlais du Tonk? Tu es prêt?
Oui.
1, 2, c'est parti.
Ouais, je voulais vous parler d'une compagnie de théâtre que j'ai découverte à l'occasion de la Saint-Gorgon il y a 15 jours à Canteleu pour leur spectacle Retour vers nos futurs. cette compagnie de théâtre, c'est Acide Caustique. Donc c'est un spectacle qui était vraiment, voilà, vraiment complètement déjanté. Il y a, en termes de décor, c'est un taco improbable avec de la fumée, énormément de fumée qui se disperse dans la salle. Et puis quatre énergumènes qui sont habillés dans des tenues alu, qui parlent comme Bruce Willis et Eddie Murphy, qui passent leur temps à se demander leur fut. Et puis on comprend peu à peu que ce sont en fait un groupe phare de la fin du 21e siècle, époque à laquelle on semble vouer un culte irrationnel aux cheveux. Ils se sont perdus à notre époque et sont pressés de repartir, mais ça s'avère pas si simple. En fait, c'est vraiment prétexte à des dialogues et à des chansons déjantées, donc faites en live. C'est sont aussi de vrais musiciens. C'est un spectacle complet, vraiment délirant et échevelu. Et en fait, bah, moi, toute ma famille de 7 à 42 ans a beaucoup ri. Voilà, les gars se finissent en slip. Allez voir leur site parce que j'adore la manière dont ils décrivent leur parcours respectif.
Merci Arnaud.
On sentait qu'il avait envie de dire
quelque chose. Il avait encore envie de dire des choses, mais c'était mal organisé.
Donc voilà. Tu es viré.
Vous ne saurez donc pas qu'ils sont en première partie de Chris Esquire le 8 octobre à Canteleu pour l'avant-dernière séance.
Mais c'est pas grave, tu le mettras dans le commentaire du billet, comme ça les gens iront voir sur le commentaire pour en savoir plus. Christophe, es-tu prêt ? C'est parti.
Donc moi je voulais vous parler d'une jeune et jolie chanteuse qui s'appelle Gemma Ray. Jeune.
Ça s'écrit comment ?
Jeune par son âge.
Gemma Ray.
Je suis désolé, c'est son prénom, Gemma Ray. R-A-Y. On va la refaire.
Non, vas-y, on te donne un peu de temps.
Mais non, la minute elle est déjà super entamée.
Tu auras le droit à un petit peu de bonus, toi, pour la peine. Juste pour la vanne.
Allez, donc je disais que c'est son sixième album parce qu'elle est jeune et j'ai découvert cette chanteuse cet été lors d'un showcase au Rêve de l'Escalier et donc accroché à sa guitare et dès les premières notes de musique qu'elle nous balance, elle nous embarque dans un voyage type Route 66. Voilà, je vous laisse écouter la suite.
Merci. Juste une remarque, Christophe, oui. Pour rebondir sur ce que disait Arnaud, j'ai marré, c'est un jeu de mots, c'est un cryptogramme, c'est quelque chose de ce genre-là, non ?
Écoute, j'ai son adresse, tu lui écriras.
D'accord. Là, je viens de placer mon mot fétiche, en tout cas, je vous le signale.
Bien vu. Il n'y a que toi qui te prends au
jeu. Non, mais là, c'est pas cool, c'est son prénom, quoi. Vous foutez de sa gueule à la nana. Je n'entends rien, moi, si elle s'appelle J'ai marré.
Pas du tout.
On n'entend plus que ça, du coup.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu déstabilisant, hein.
J'aurais dû dire, je sais pas moi, Mademoiselle Ray.
Exactement. Eh bien, ça va être à mon tour. Alors attends que je m'organise dans mes histoires. Hop. C'est parti pour moi. Je baisse un peu le générique. Moi, je voulais vous parler de... Je suis en pleine période Pink Floyd. Donc je me suis offert le double DVD Pulse, le live, que j'avais usé en cassette audio lors de mon adolescence sans vraiment l'avoir vu en vidéo. Donc là, c'est chose faite et c'est vraiment top. C'est vraiment un concert. Le son, la lumière, la setlist durant les 145 minutes de show sont vraiment impressionnants. Moi, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, j'étais encore scotché. Donc Pulse, c'est une vidéo issue du concert Pink Floyd qui avait été donné le 20 octobre 1994 au Earls Court à Londres. Sont joués durant le concert tous les morceaux les plus connus de Pink Floyd, mais notamment l'intégralité de Dark Side of the Moon dans l'ordre de l'album. Donc c'est un concert qui a plus de 20 ans mais qui a été remasterisé et donc cette remasterisation ne laisse pas voir toutes les imperfections qu'on pouvait avoir à l'époque sur un format de ce type là et c'est vraiment quelque chose que j'ai, moi je vous conseille de le voir, hein, parce que c'est un truc qui m'a impressionné, quoi. Et puis un autre sujet, bah j'ai vu, il y a la nouvelle saison. Ah, j'ai plus le temps. Tant pis.
Mal organisé peut-être.
C'est terminé.
Complètement mal organisé.
J'ai vu la nouvelle saison, c'est l'automne peut-être, non ?
Je ne dirais pas. Marius ?
C'est parti.
Donc moi j'ai fait Quai des Livres dernièrement où j'ai raté Arnaud, qui, enfin qui ne nous a pas vu.
C'est normal qu'il n'y a pas de son à ton truc ?
Si, ça part normalement. Ouais, ça marche là, hein ? Ouais, ça va marcher là. Vas-y, fais péter. Ah, c'est bon ça.
Vas-y.
Donc j'ai fait que des livres et en fait j'avais une j'avais un bac de vinyle et dans ce bac de vinyle j'ai retrouvé le premier album de Nina Hagen.
Wow.
Nina Hagen tout court hein, d'ailleurs, Nina Hagen Band. Et donc je l'ai pris, donc je me suis dit je vais le prendre parce que je l'aurais vendu forcément. Et j'ai écouté cet album et c'est simplement énorme quoi. C'est un retour aux sources, il date de 78. Je me suis claqué ça sur ma platine et j'ai pris une claque monumentale. Donc voilà, c'est ancien, c'est bon, il y a des voix qui partent dans tous les sens comme on vient d'entendre et c'est un pur plaisir. Donc ce morceau, alors s'appelle je ne saurais même pas comment il s'appelle.
Natürlich
auf Bahnhofzoo. Auf Bahnhofzoo. Et
je crois que tout le court tennis s'est entendu.
Et en fait ce côté là, enfin moi ça me rappelle un petit côté zappaïen. Il y a vraiment quelque chose qui me touche dans cet
c'est
album.
C'est fini. Hein.
Merci Marius.
Donc, c'était bien non
ben, c'était très bien.
Nina Hagen auf Bahnhofzoo.
Auf Bahnhofzoo. J'aurais voulu que Didou soit là pour la traduction.
Ah oui.
Freddy, c'est parti.
Ah, ce morceau, vous reconnaissez tous. Neil Young, évidemment. Mais aussi le générique de mon coup de cœur du jour, c'est Eldorado, Radio Eldorado pour être plus précis, un podcast musical redécouvert récemment, orchestré par Pierre Lemarchand, un Rouennais, et oui, encore, pour qui j'ai beaucoup d'estime. On retrouve dans son travail la rigueur et la passion qui caractérisent ce bienfaiteur de la musique, ancien animateur de Jazz à part sur Radio HDR et actuel organisateur de Jazz à part Festival cette fois. Un podcast tenu par un fil rouge qui part d'une chanson pour arriver à une autre en passant par 8 ou 10 étapes musicales comme autant de connecteurs logiques. Des errances musicales, comme il a coutume de dire, folk, rock et autres réjouissances. Donc Radio Eldorado, quand on adhère, c'est addictif. radio-eldorado.fr.
Joli.
Et là, on sent le professionnel.
Quel talent, on est des branques à côté, en fait.
Enfin, tu es un branque, parce que j'ai fini.
J'ai pas été terrible non plus, hein, mais bon. Eh ben, merci, Wilfredi. C'est vrai qu'on mettra le lien, hein, bien sûr, pour retrouver facilement. On peut s'abonner, comme n'importe quel podcast, sur iTunes. Ou directement sur son site.
Tu sais quoi, quand tu me fais comme ça, que tu me casses, tu me donnes de l'aérophagie.
Pourquoi ?
Parce que je l'ai.
Joli ! Un point pour Marius. Tu l'as traité d'empailleur ?
Non, il avait son mot à caser, je pense.
Ça, c'était beau.
C'était bon, hein.
Ouais, c'était super.
Voilà, tout le monde, là, ça s'enchaîne, là. Tac, tac, les trois, boum. Toi, t'as pas placé ton mot encore.
Moi, je proposerais un truc pour la semaine prochaine, mais pour le prochain épisode, pardon. Comme on est dans un festival de BD. Je vous proposerai un cours sur la flébographie.
Vous ne voyez pas venir le mot. Hein.
Là, vous ne l'avez pas vu. Hein.
Non, du tout.
Et encore moins entendu.
Nickel.
Parce qu'en fait, maintenant, on arrête tous les gens qui ont des...
T'as un problème avec tes cheveux, Marius.
On arrête toutes les personnes qui ont un badge. Ouais. Et en fait, on ne sait pas qui c'est, mais on dit, alors, s'ils ont un badge, c'est qu'ils sont importants.
Exactement.
Donc vous êtes...
De l'anthropode.
Et alors, je vois maintenant... au loin Steve Baker qui va peut-être nous rejoindre.
C'est le running gag.
Il est entouré d'adolescentes.
Est-ce que
ça m'étonne pas de lui ?
Et c'est ça. Il vient de raconter un exemple que c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est ça, YouTube c'est important.
Christophe, de quoi veux-tu nous parler ? Tu as une rubrique.
Donc, comme nous sommes dans un festival de BD...
Sans déconner.
Je vais vous parler d'une BD et plus particulièrement du dernier album de notre ami Derf. Pourquoi Derf ? Pourquoi notre ami ?
Derf Bagderf, tu veux
notre ami Damer.
Derf Bagderf.
Oui, pourquoi Derf ? Vas-y, je parle.
Parce que il avait son précédent ouvrage était Mon ami Damer, que vous avez tous lu ici autour de cette table.
Spécialement aimé, ouais.
J'avais présenté dans un précédent épisode de l'Anthropode. Il nous revient donc avec un nouveau sujet, un petit peu hors norme encore une fois. Il s'agit des éboueurs. Alors les éboueurs, faire un sujet avec les éboueurs, pas simple. Profession méconnue, mais ô combien indispensable. Il raconte un petit peu ça, c'est un petit peu autobiographique, puisque à la sortie de la fac, en fait, il a occupé un boulot d'éboueur. Donc, il raconte un petit peu ses déboires. J'ai pas fini de le lire, puisqu'il est sorti il y a 4 jours, donc je l'ai feuilleté hier soir. J'ai feuilleté les 20 premières pages. Et ce qui est super intéressant dès le début, c'est qu'il nous propose un historique sur la gestion des déchets depuis la sédentarisation de l'humanité, enfin de l'homme.
Non, mais c'est
et franchement, c'est, bon, c'est quelques pages, mais rien que ça, on se dit, waouh, le type, il a été chercher quand même des choses super intéressantes. Quoi. Et donc, il a évidemment une expérience en la matière. Et le peu que j'ai pu lire, c'est que c'est vraiment trash.
Ah oui, c'est... Ah, tu te donnes envie, là.
Il a toujours son humour un petit peu décalé, évidemment. Son graphisme,
on va dire, pareil,
si particulier, incomparable,
mais c'est
tellement expressif. Voilà, je trouve que c'est un type extraordinaire, un narrateur hors pair. Voilà, j'ai que les 20 premières pages, donc c'est difficile de vraiment...
De pitcher,
c'est quelque chose
chaud,
de très
quoi.
Concis, voilà, c'est plus qu'à chaud.
On sent que t'es ému, là.
Mais les 20 premières pages sont vraiment époustouflantes.
Et quoi. L'ambiance par rapport à mon ami Damer, donc t'es vraiment dans un autre registre, je suppose, plus proche peut-être de Mobilhome, non
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a toute une galerie de personnages, peut-être c'est un peu stéréotypé, c'est-à-dire qu'il y a le chef qui est un gros branleur, un chieur pas possible... T'as le gros musculeux, tu sais, qui a tout fait, qui a tout vu, qui a tout chié, tu vois. Ouais. Style, non, je ne cite personne.
non, si j'aime pas, ne cite personne, moi qui tu veux dire.
T'as le pauvre type, quoi, qui est là, qui fait ce boulot-là, enfin voilà. Et donc, ils sont une équipe, en fait. Il y a, je sais pas, 5-6 employés. Et puis, il y a les deux connards, lui et son copain, qui sortent de la fac. Voilà, qui découvre un peu le milieu du travail à travers une profession qui est extrêmement difficile, et ils s'aperçoivent en fait que finalement les gens sont des porcs, quoi. à travers leurs déchets. Voilà, c'est que les 20 premières pages.
Dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es. Quoi.
Exactement.
Exactement. Ok. Exactement, bah, écoute, voilà. En tout cas, ça donne envie parce que c'est vrai que ces premiers. On a beaucoup parlé de mon ami Demmer, mais on a un petit peu évoqué, je crois, aussi punk rock et Mobilhome,
ouais. Très, très bien.
Qui est vraiment extraordinaire, excellent. Aussi. Enfin, je trouve que, comme tu dis, son trait, sa narration, l'ensemble des choses font que finalement, on fait abstraction du trait si particulier, on est complètement pris dans son.
On est complètement habitué. Enfin, moi, ça y est, ça me choque plus du tout son graphisme.
Je suis jamais choqué, moi.
Non, c'est pas choquant, c'est une autre façon de faire.
C'est vrai, c'est pas le bon mot. C'est pas choquant, c'est que c'est. Au départ, c'est un peu déroutant, en fait, son graphisme. Mais finalement, on s'y fait. Et je trouve qu'il se bonifie au fil de ses albums, quoi.
Oui, voilà. Sur Punk Rock et Mobilhome, il y avait une bande à écouter, une bande à télécharger sur Deezer. Sur mon ami Damer, pareil. Est-ce que là, il a refait la même
chose?
Je
ne crois pas. J'ai pas été jusqu'à la fin parce que s'il y a une bande, elle était
au début.
Au début, donc là, il annonce rien.
D'accord.
Donc, juste à la fin, il explique même le fonctionnement d'un camion poubelle avec la benne et tout. Enfin, ça a l'air complètement.
Est-ce que ça t'a donné envie d'aller fouiller les poubelles d'un voisin?
Des voisins.
Non, ça m'a fait. J'ai eu une autre réaction, c'est-à-dire que quand je jette mes propres. Une autre
ça
réaction.
Ça fait bander la fouille dans les poubelles, ce qu'on a.
Putain, les mecs, allez voir vos femmes, bordel.
Non, bah j'ai marré, moi.
Je disais donc que ça m'a fait réfléchir à la façon dont à ce que je jetais moi-même dans mes poubelles.
Ce que quelqu'un imaginerait s'il ouvrait son sac.
Ouais, c'est ça. Et puis donc le fait de balancer le sac poubelle dans le camion et que là, tout s'écrase, etc., que ça génère des odeurs. Mais bon, il n'y a pas que des odeurs, je vous raconte. Genre le sac de couche qui explose et le mec il se prend de la chiasse plein la gueule. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Je me dis, j'ai pris conscience un petit peu
du métier,
de mes ordures ménagères et du métier que ces gens-là pouvaient faire. Que c'était
et
vraiment
du coup,
pas.
Tes couches, tu les conditionnes autrement maintenant.
Du coup, j'ai fait un trou dans mon jardin et j'en fouille tout.
T'as raison. Tu fais tout en autoproduction.
Exactement.
Et après, tu fais pousser tes plantes dessus.
Je produis du gaz, tout ça.
Bah écoute, merci. Hein,
ouais,
donc, le nom s'appelle donc Trash.
Ça s'appelle Trash.
Trash,
ED, avec écrit ED, Trashed. Je ne sais pas le prononcer.
Ok. Donc je suis le premier à le pré-réserver au prêt.
Pas de soucis.
Ok. Eh ben merci.
Et j'espère que Normandie Bulle aura un jour l'idée intelligente d'inviter ce type-là. Mais bon,
il est sur le coup. Après, il faut juste qu'il.
Il est loin.
Mais il est déjà venu à Rouen. Donc
oui, il est venu. D'ailleurs, il y a un billet spécial sur le site de l'Entrepode.
Tout à fait.
Marc Derf était venu au Grand Nulle Part pour dédicacer. J'avais eu la chance de le rencontrer.
Oui, je me souviens. J'ai
moi de même.
J'ai la dédicace.
Tu l'avais vu aussi, effectivement.
Ouais, mon album est dédicacé.
Eh bien, on accueille là maintenant donc Mathias Lehmann, qui a reçu le prix.
Bonjour, à qui on dit bravo, ouais, dans bravo, ouais, bravo, bravo,
bravo.
Merci, merci beaucoup.
On peut se tutoyer ?
Bien sûr.
On est content de t'avoir à notre table, très content.
Et
il y a une grosse raison à ça, puisque avant même de savoir que tu étais avais reçu le prix du festival, on a vraiment eu un coup de cœur sur ta bande dessinée qu'on a lu justement en fait qu'on a découvert qu'Arnaud a découvert à l'occasion d'une visite chez un libraire, donc La Favorite, qui est publiée chez Actes Sud BD.
Tout à fait.
Et qui raconte, je dirais en quelques lignes, une histoire un peu troublante d'une petite fille qui vit recluse chez ses grands-parents, mais on ne veut pas en dire de trop. Toute l'histoire.
Bah, beaucoup l'ont fait.
On va éviter parce que vraiment, en plus, je crois qu'il y a un vrai plaisir à découvrir.
Je l'ai pas encore lu.
Comment la présenterais-tu d'ailleurs, si tu devais en
avoir? Moi, je la présente assez mal. Maintenant, je prends des précautions, mais c'est vrai qu'au départ, je révélais beaucoup de choses. Alors, disons que. Effectivement, donc c'est une petite fille, Constance, qui a environ 10 ans et qui vit dans un grand manoir au fin fond de la Seine-et-Marne dans les années fin 70, c'est la période de Giscard, d'ailleurs on le voit apparaître. Il y a une petite apparition. Et en fait, elle vit très isolée, donc parce qu'elle va pas à l'école, c'est sa grand-mère qui s'occupe de son éducation. Qu'est-ce que je peux dire de plus?
Grand-mère un peu revêche, manifestement.
Très acariâtre, très méchante, qui la punit beaucoup et qui même fait aussi des punitions corporelles, carrément. Ouais. Donc voilà. Et son grand-père, donc lui, il est complètement soumis à cette femme. Il est pas très courageux. Il a un peu baissé les bras. Il vient d'une famille. C'est l'héritier d'une famille d'aristocrates. Mais il n'a pas réussi à maintenir le niveau de vie qu'avait sa famille. Et disons qu'il a toujours vécu dans la direction qu'on lui indiquait, quoi. Avant, c'était son père qui lui disait ce qu'il devait faire. Après, c'est sa femme, etc.
On le sent assez proche de la petite.
Oui,
il a... proche. En tout cas, on sent une certaine affection de sa part. Il est...
Oui, tout à fait. Ouais.
Mais tout en n'ayant pas la force d'aller à l'encontre de... des violences corporelles de
voilà, il est témoin de ce que subit l'enfant, mais il n'a pas le courage d'intervenir, et puis il boit beaucoup, et du coup ça le rend pas tellement plus actif dans cette histoire.
Ouais. Il se réfugie beaucoup dans l'alcool.
Voilà.
Freddy, oui. Alors, toi qui n'as pas lu.
D'où est partie cette histoire? Comment elle est née dans ton esprit?
En fait, moi, il y avait une thématique que je voulais aborder principalement. Si je dévoile cette thématique, je risque de trahir un peu le récit. Donc, j'en parle pas. Après, il y a une autre thématique dont je voulais parler. C'était aussi le déterminisme social. Et puis aussi, ce côté un peu cette campagne un peu renfermée sur elle-même où il y a des espèces de un vieux système un peu féodal qui continue à fonctionner, c'est-à-dire que il y a la famille des riches aristocrates, ils sont là, on se mêle pas de ce qu'ils font, il y a une ambiance comme ça.
Et d'ailleurs, sans rien dévoiler justement, mais l'histoire bascule au moment où une famille de Portugais, je crois d'origine portugaise, s'installe pour venir aider Adélaïde et Émile d'Octeville dans leur demeure. Et
tout
là, il y a des interactions. Ouais. C'est les premières interactions de Constance avec l'extérieur.
Bah voilà, en fait, j'ai oublié de dire. Enfin, je fais juste une petite parenthèse. En fait, Constance connaît pas ses parents. A priori, ils sont morts. Donc vraiment, elle a vécu isolée avec ses deux grands-parents. Donc c'est comme si un enfant qui vit à deux générations de ce qu'il devrait vivre en principe.
Tout à fait.
Et effectivement, il y a un camp de gitans qui s'installe dans le village. Donc la grand-mère Adélaïde, inquiète, décide d'engager un gardien, en l'occurrence Monsieur Da Costa, qui est un Portugais, donc qui vient s'installer dans une petite maison attenante à la propriété de la famille. Et il a deux enfants, donc un garçon et une fille en plus. Donc pour Constance, la petite fille, c'est la découverte des enfants. C'est la première fois qu'elle voit un autre enfant. Et le résultat, c'est qu'elle fait des comparaisons aussi sur quelle est la différence. Elle fait des comparaisons sociales, mais elle fait aussi des comparaisons plus profondes sur comment se comportent les petites filles et les petits garçons. Et là, ça va tout faire basculer.
Pas trop.
Dites pas trop.
Est-ce que c'est ton univers habituel? Moi, je découvre. Hein, c'est bon, je pose cette question. Est-ce que c'est ceci. Ton univers habituel, ce côté un peu sombre, un peu...
On peut dire que tous mes récits sont assez sombres, puisque le précédent, Les Larmes d'Ézéchiel, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se remémore ses années d'alcoolisme adolescent, donc c'était pas non plus super gay.
Et l'étouffeur de la RN 115, ça a pas l'air super gay, j'ai pas eu encore l'occasion de
lire. L'étouffeur de la RN 115, c'est une histoire de tueur en série, un peu onirique. Oui, donc disons qu'il y a une bonne base assez sombre, mais moi j'essaye quand même de traiter ça avec beaucoup d'humour et de distance, quoi.
Tout à fait.
Enfin, la favorite, moi je pense que c'est vraiment. Tragicomique au sens où voilà, il y a toutes les possibilités sont là.
Est-ce qu'il y a une inspiration de faits divers? Est-ce que tu as pioché dans des faits divers à droite à gauche et puis une espèce de mixture de tout ça?
Eh bien, pas du tout, en fait. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, effectivement, et qui pensent même... D'ailleurs, j'ai même vu un article où la personne qui a écrit l'article affirmait que c'était tiré d'un fait divers réel. Mais non, pas du tout. C'est
ton imagination. Quoi.
C'est mon imagination. D'accord. Et en fait, il y a un moment, effectivement, où le récit bascule dans le fait divers, ce qui fait qu'on passe peut-être... du personnel à l'universel, entre guillemets, quoi. Voilà.
C'est vraiment une. Enfin, ce qui est vraiment bien, justement, c'est une histoire à tiroir, quoi. Il y a différentes situations qui s'enchaînent et qui viennent.
Bien dans ton micro, Arnaud.
Pardon, qui viennent éclairer d'un jour différent tout ce qui a précédé. Et voilà. Enfin, c'est. L'histoire, le scénario est, à mon sens, très fort, quoi.
D'accord.
Oui.
Mais non, je voulais parler de l'actu très récente, là, la remise du prix. J'imagine que c'est un honneur apprécié.
Ah bah complètement, oui, ça fait très plaisir. Et puis j'ai une sculpture de vache normande.
Très locale.
Oui. Ouais.
Moi, je voulais juste revenir, c'est sur ton parcours, en fait. Puisque tu es auteur, c'est-à-dire à la fois dessinateur, scénariste. Et voilà, comment tu es arrivé à ce métier, à devenir comme à la fois comme écrivain, mais enfin et également du coup comme dessinateur. Et par quelles étapes tu es passé? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais fait du fanzina dans les années 90.
Voilà.
Et puis que tu avais développé aussi des techniques, différentes techniques. T'es assez spécialisé dans certaines techniques de
notamment la carte à gratter.
Oui.
Donc, est-ce que tu nous en dis un peu plus sur ça, sur ton parcours
sur
en général?
Mon parcours, moi j'ai pas fait d'études, j'ai postulé aux Beaux-Arts quand j'avais 18 ans et ils ont pas voulu de moi.
Voilà.
De moi non plus.
Ah d'accord, on se serre la main alors.
Non, je plaisante. Hein.
Ah, bon. Lui il a raté sa vie par contre.
En fait, il a été accepté nulle part.
C'était nulle part.
Sauf ici, désolé.
Enfin, moi aussi, j'ai vraiment présenté les Beaux-Arts et j'étais refusé aussi.
Ah d'accord,
moi c'est pas une connerie.
T'es trop loin.
Et alors donc les Beaux-Arts, et du coup tu as comment ça s'est passé, comment s'est enchaîné?
Mais en fait j'ai pas vraiment enchaîné, j'ai continué ce que je faisais avant, parce que j'ai commencé à faire des fanzines à peu près à l'âge de 16 ans. Et moi à l'époque j'étais vraiment passionné par tout ce qui était la BD, le graphisme underground entre guillemets, donc vraiment les héritiers Crumb, etc. Mais bon, là je parle de trucs plus contemporains, quoi. C'est au milieu des années 90, j'avais commencé à publier ces fanzines, et puis de fil en aiguille, je publiais des gens qui eux-mêmes publiaient des fanzines, donc ils me demandaient des trucs. Et il y avait vraiment un réseau international comme ça, qui fonctionnait que par courrier, d'ailleurs.
Ah oui,
parce que c'était
à l'époque,
Internet.
Ouais. Tu étais basé sur où à l'époque, toi?
Moi, j'étais déjà dans la région parisienne, toujours.
Et le saut, en fait, le grand saut, en fait d'un...
Le grand saut, non, moi j'ai l'impression d'avoir été dans une continuité tout le temps, en fait.
Il n'y a rien, il n'y a pas une étape qui symbolise un passage.
Bah, peut-être le premier bouquin chez Actes Sud, parce qu'avant j'avais sorti des petits livres à droite à gauche, mais c'était des petits formats, un peu format nouvelle, tout ça, alors que le livre chez Actes Sud, là, c'était un gros... vraiment, c'est le gros passage à l'acte du livre. Bon, en plus, il est assez mastoc, oui, il fait 240 pages... C'était entièrement carte à gratter, le travail s'est étalé sur 8 ans, donc oui, c'était...
Ouais. Pardonne ma méconnaissance du sujet, mais la carte à gratter, ça consiste en quoi?
Qu'est-ce à dire?
Moi, ça... Alors, si je peux être très précis, la carte à gratter, donc, c'est un morceau de carton qui est recouvert d'une surface de kaolin, qui est donc un peu friable, quoi, un peu comme de la craie, mais en mieux, en plus solide. Et donc cette surface est très lisse et dessus on applique une encre noire. Ce qui fait que quand on utilise un instrument contondant type cutter ou plume ou etc., ben le trait apparaît en blanc.
C'est un peu comme la technique du graffitage sur de la céramique ou des choses comme ça, où en fait c'est le fait de gratter qui fait...
Voilà,
c'est un négatif en fait.
Oui, c'est un négatif, mais c'est comme... Moi, je le vois comme éclairer une pièce sombre, quoi. C'est-à-dire que la lumière va apparaître à certains endroits. Donc, on fait apparaître la lumière en quelque sorte.
D'accord.
Mais c'est très proche de la gravure, la gravure sur bois de boue, ce genre de choses. Voilà.
D'accord. Et juste, j'ai un problème de micro. Hop.
Vas-y.
Je ne sais pas si on entend.
Ça grésille.
Ouais, un petit peu. Bon. On évoquait tout à l'heure un petit peu les événements, je dirais, annexes à ce seul week-end. Et il y a eu un BD concert cette semaine.
Ah mais moi ça fait une semaine que je suis là. Donc,
oui, mais nous on est là juste là, mais effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait? Donc le BD concert, donc avec, si je dis pas de bêtises, qui était à Mont-Saint-Aignan avec Alain Lomax, c'est ça?
Non, pas du tout. En fait,
alors, je me trompe.
Bien, bravo.
Justement.
Non. Attends, je précise. En fait, Alain Lomax, c'est le thème
d'accord,
du BD concert
pour moi.
Que je fais avec.
Ah bah bonjour le sérieux. Ah
bon, on va le garder celui-là.
Ah, j'ai pas pu y aller. Alors,
en fait, Alain Lomax, c'était un folkloriste américain qui, dans les années 50, a enregistré.
D'accord.
Il est un peu décédé. En fait.
Il est mort.
C'est arrivé quand ça?
Il nous a rien dit.
T'étais pas obligé de savoir.
Ah bah, la preuve, non, je le savais.
Et donc, en fait, on a monté ce projet, enfin, à l'initiative de Sylvain Choignet et Fred Joannet qui font le duo qui s'appelle King Biscuit. Et donc on a monté ce projet de concert dessiné. Le principe c'est que eux ils jouent leur répertoire et moi j'interviens sur plusieurs tableaux dessinés qui sont filmés en direct et retranscrits sur un écran.
D'accord.
Donc
tu te charges de projeter toi-même les images?
Le vidéoprojecteur s'en charge.
Mais tu choisis
les bases d'images, scénographie, c'est
déjà
ça a été quand même préparé. On a fait une résidence d'à peu près un mois et on a vraiment une scéno quoi. Mais après, il y a une marge d'improvisation à chaque fois. Quoi. Et donc là, le concert c'était à l'Ariel et ça c'était dans le cadre aussi d'une initiative de la Maison de l'Université où il y a par ailleurs une exposition autour de la Favorite en ce moment, donc il y a quelques originaux. L'entrée est libre d'ailleurs jusqu'au 19 octobre.
D'accord.
Et King Biscuit, ils sont du coin, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, ils sont rouennais. Ouais. Ouais. Enfin, Sylvain est d'origine parisienne, mais il est installé à Rouen depuis quelques
temps. Nul n'est parfait, j'ai envie de te dire.
Et
il travaille avec la compagnie Les Vibrants Défricheurs.
C'est ça. Ouais.
Est-ce que, à part donc la Favorite, est-ce que tu as des projets à venir, des choses dans les cartons? Ou est-ce que pour l'instant c'est l'actualité sur la Favorite?
Pour l'instant, c'est vraiment la Favorite. J'ai pas de gros projets d'écriture pour le moment, mais des petites idées que j'ai pas encore eu le temps de bien poursuivre. Sinon, il y a un petit bouquin qui doit sortir à l'association dans la collection Pattes de Mouche, c'est petit format A6. Et qui s'appelle Personne ne sait que je vais mourir. C'est toujours un titre.
Ça, c'est gay aussi, ça.
Sinon, ça va dans ta vie.
Très bien. Et ça va sortir normalement en janvier, je pense.
Le déclencheur pour une histoire comme la Favorite, là, puisque c'est pas le fait divers, peut-être qu'il y a finalement tu peux pas l'analyser, j'en sais rien, mais comment t'es venu l'idée Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu déclencher ça? Non, c'est peut-être que tu ne voulais pas raconter.
C'est ce que je voulais pas raconter, mais en fait, à d'autres occasions, je l'ai raconté. Alors maintenant, je ne sais pas.
Non, je pense. C'est dommage, je pense.
laissons les voilà. autres, nos auditeurs le découvrir en tant que lecteur.
Plaisir à la découverte.
Si ça peut, bien sûr. Moi, je suis pour hein, le plaisir de la découverte.
Ah ouais, si ça peut donner envie à Freddy, il hein, ah y a ouais, les aventures fait, ouais. du pour dire que c'est pas non plus que noir. Tu as les enquêtes de Ludo, hein, inspiration du gadget, et ouais. et puis les enquêtes de l'inspecteur détective Max Pécas. Hein,
exactement. J'ai beaucoup aimé les références. Hein.
Pas mal de références.
Les enquêtes de Ludo, ça m'a ramené. Mais alors.
Ah oui, oui. Tu es toi qui l'as refait, j'imagine.
Ah oui, j'ai tout redessiné. En fait, j'avais un recueil des enquêtes de Ludo que j'ai acheté. En fait, je suis tombé dessus pendant que j'étais en train de travailler sur la favorite. Et du coup, voilà, c'était.
C'est très rigolo, c'est une petite Madeleine.
Ouais. Bah, écoute, merci à toi d'être venu nous consacréer quelques instants.
Beaucoup.
Encore félicitations, surtout.
Merci à vous.
Et puis, bonne continuation pour la favorite, puis pour les autres, évidemment.
Merci, à vous aussi.
Merci, à bientôt. À bientôt.
Salut.
Voilà comment se termine l'Entrepode à Normandie Bulle. Donc nous, on a encore passé une bonne journée, on a eu plein de monde. Et puis, il va nous rester à vous souhaiter une bonne fin de journée. Nous, on va plier les Gaules. On vous dit...
Donc vous m'entendez là?
Oui, on t'entend bien.
Donc, et pour finir, je vois Steve Baker qui arrive pour un dernier passage.
Salut, allez!
Non, c'était une super émission, hyper enrichissante, super intéressante. On espère une session
qui vous plaira l'année prochaine.
Une session nouvelle l'année prochaine.
Voilà. Et on vous dit à bientôt.
Bisous, à bientôt.
À plus. Salut.
Bouge bien.
Quesadilla.